Bon, je fais la présentation. Bonsoir. Ça marche ?
Oui. Monte le bouton vers le haut.
Bah, il est vers le haut, là. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui.
Oui ? C'est pas très fort, hein. Allô, allô. Bon, on va commencer avec un peu de retard. Il est 20h07. Du temps de Jean-Pierre, c'était à 20h pile. Là, on a fait un petit moitié de quart d'heure toulousain, ce qui a permis à beaucoup de gens d'arriver. Et ce soir, j'ai le très grand plaisir de vous présenter Eric Lowen, qui est directeur de la... ou président, pardon.
Non, pas président.
Directeur de l'Université populaire de philosophie de Toulouse, et qui va vous parler de la démocratie et de la laïcité. Je vais lui laisser la parole pour qu'il vous explique ce qu'il a fait et lui laisser faire sa conférence. Merci.
Merci bien. Tenez, vous pouvez le distribuer. Voilà. Alors, je vous ai préparé des petits documents qui vont reprendre la trame de mon intervention de ce soir. Donc, j'attends que ce soit distribué pour commencer, comme ça vous permettra de suivre au fur et à mesure ce que je vais vous présenter. Est-ce que ça va au point de vue du son? Tout le monde entend dans la salle? Voilà. Notamment les gens qui sont au fond, vous entendez? Voilà. Très bien. Les papiers sont arrivés jusqu'au bout de la salle, donc je vais pouvoir commencer. Alors, avant de rentrer dans le sujet de ce soir, je vais vous expliquer un petit peu brièvement ce qui m'a amené à discuter avec vous du sujet de ce soir. Ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, depuis 2005, que je développe des activités dans le cadre, donc, soit à la fac ou ailleurs, des cours sur la question de la laïcité. C'est-à-dire que dans mon travail plus général sur la question de la conquête des libertés, j'ai fait une sorte de spécialisation à côté d'autres choses sur l'histoire des révolutions, sur l'histoire des révolutions ou sur l'histoire donc, de la conquête des libertés. J'ai été un petit peu obligé de me tourner vers la laïcité en raison à la fois de demandes dans les années 2000, mais aussi en raison du fait que la laïcité est un dispositif extrêmement important en matière de liberté. Et donc ça fait maintenant depuis ce temps-là que régulièrement je donne différents types de cours là-dessus qui peuvent être soit directement sur la laïcité, soit, c'est-à-dire les principes de la laïcité, soit sur l'histoire de la laïcité, c'est-à-dire comment on en est venu à la laïcité, par qui, comment, voire dans certains cas sur des débats actuels autour de ces questions-là. Est-ce que, par exemple, la laïcité est-elle soluble dans l'Europe, hein ? La laïcité est-elle euro-compatible ? Voilà. Donc, je développe différents types de cycles de cours ou de conférences sur ces questions-là. Et le sujet que je vous propose ce soir, c'est une sorte de petit sujet de synthèse entre d'un côté des sujets sur la démocratie, sur les structures démocratiques, et ensuite sur la notion de laïcité. C'est pour ça d'ailleurs que si ces questions-là vous intéressent, alors là je m'excuse, je change de casquette, là je mets la casquette, commerciale, voilà. Si ça vous intéresse, j'ai pris depuis fort longtemps l'habitude d'enregistrer les cours que je donne, et donc vous pouvez les retrouver en CD et DVD MP3. Ça, par exemple, c'est le sujet de la conférence de ce soir, mais dans un modèle un peu plus développé que ce que je vais vous faire, parce qu'en termes de timing, normalement, je n'ai qu'une heure à ma disposition. Et pareil, si ça vous intéresse sur la laïcité, je pourrais vous faire passer des petits documents qui vous montreront ce que, si ça, jamais ça vous intéresse. Par exemple, ça c'est un cycle de cours sur la laïcité, il y a 12 sujets, parce que souvent un des problèmes de la laïcité, c'est qu'on connaît le mot, ensuite on ne connaît pas forcément beaucoup les idées, et en général, on connaît encore moins tout ce qui structure la laïcité. Et quand je dis cela, ce n'est pas forcément vous, au point de vue, je dirais, de public qui ne sont pas des spécialistes de la chose, mais je pouvais affirmer qu'en termes d'explication et de compréhension, parmi les sujets traités aujourd'hui ou abordables en France, la laïcité, c'est ça tout le paradoxe. Il n'y a pas une semaine sans que les hommes politiques ou l'actualité ne ramènent cette notion sur la table, mais il y a un déficit absolument abyssal d'explication et de compréhension de la laïcité. Ce qui explique beaucoup, excusez-moi de le dire comme ça, de conneries qui sont régulièrement dites sur la laïcité, aussi bien dans des cadres religieux, de la part de certains représentants religieux, aussi bien que d'hommes politiques passés, présents et malheureusement certainement futurs par rapport à ça. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Là par exemple, ça fait 12 cours autour de ça qui expliquent l'état du monde au point de vue par exemple ces questions sur les fondements de la laïcité, qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est la différence par exemple entre la laïcité que nous connaissons et ce qu'on appelle la pensée laïque. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil dessus. Et après, du côté de ce qui relève des raisons de la laïcité, j'ai été aussi amené à à traiter depuis... Alors ça, c'était la Fermera à Toulouse qui avait déclenché ça, parce qu'on m'a demandé de monter un petit peu sur le créneau. Et depuis la Fermera à Toulouse, j'ai développé une histoire des violences religieuses. C'est en fait une sorte de contre-histoire des religions qui aborde la problématique, le tabou, pour ne pas dire, des relations entre religion et violence, et notamment cette notion de violence religieuse. Puisqu'en arrière-plan de la laïcité, se pose cette question fondamentale de la dimension, si vous voulez, violente que les religions, quelles que soient les confessionnalités, de la croix, du croissant et du tout ce que vous voulez, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de différence en la matière. Donc une des raisons qui historiquement amène à la laïcité, c'est les violences religieuses. Sans les guerres de religion, sans l'inquisition, sans l'affaire Calas pour être dans la région, sans l'affaire du chevalier de la Barre, voilà, on peut faire une longue liste comme ça. Bon, la laïcité, il n'y en aurait pas eu besoin. C'est-à-dire que ce qu'on, la plupart du temps, on oublie de dire, c'est que la laïcité a été une solution qui a été trouvée pour pacifier les rapports, d'ailleurs pas forcément d'abord entre le politique et les religieux, mais d'abord entre les religions entre elles, au regard d'une histoire qui est une histoire, en France, où vous avez plus d'une quarantaine de guerres de religion. Et pas simplement entre catholiques et protestants, on peut remonter dès l'Antiquité. Donc si ces choses-là vous intéressent, je vous invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus, et pour que, d'ailleurs, ça soit fait de manière plus, on va dire, plus rigoureuse, quand ce projet a été développé, l'idée, c'était pas faire simplement une histoire franco-française. Donc là, on s'intéresse aux religions polythéistes, par exemple les violences dans le bouddhisme, les violences religieuses, je précise bien les violences religieuses, pas les violences de monsieur ou madame tout le monde, dans l'hindouisme, dans les religions indiennes, dans les sympathiques religions amérindiennes, telles que certaines qui pratiquaient depuis les sacrifices humains jusqu'aux tortures religieuses. Donc vous voyez qu'en matière de choses sympathiques et humanistes, si je puis dire, nos religions contemporaines n'en ont pas le monopole. Bon. Donc si ces questions-là vous intéressent, vous pourrez jeter un petit coup d'œil. Ça part depuis les périodes, on a des indications déjà à l'âge de bronze, et puis on peut remonter jusqu'à notre époque. Puisque dans ce cycle, qui fait à peu près une soixantaine de sujets, j'arrive jusqu'au XXe siècle avec les guerres de religion contemporaines, que ce soit en France ou en Inde, puisque je vais vous poser une question, une sorte de petite colle, pour vous titiller pour la conférence de ce soir. D'après vous, quelle est la plus grande guerre de religion du XXe siècle? Quand je dis grande, c'est au point de vue du nombre de morts. Je ne vous parle pas de la Saint-Barthélemy. Je vous parle au XXe siècle. Je ne parle pas en France, c'est au niveau mondial.
C'était la Deuxième Guerre mondiale, Hitler qui a mis aux Juifs, non ?
C'est l'Holocauste ?
Non. Bon, on peut l'impliquer, mais c'est pas ça. Alors, je l'ai entendu dans la salle. Je l'ai entendu dans la salle. Il y a deux personnes, en tout cas, au moins de ce que j'ai entendu, qui l'ont dit. Le plus grand conflit religieux au XXe siècle, c'est entre les Pakistanais, enfin entre les musulmans et les hindous dans le cadre de la partition de l'Inde qui va se solder par plus d'un million de morts. Ce que la plupart du temps, pour nous, ça n'a jamais existé, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que c'est totalement sous-traité. Or, quand même, un million de morts, ce n'est pas, si je puis dire, un détail de l'histoire. Hein. Et là, nous ne parlons pas de quelque chose au XVe siècle, nous parlons, là, on est en 1948-1949, lors de la partition, par des affrontements qui ressemblent en tout point, sur beaucoup de points, par exemple, à ce qu'on aura dans le cadre du Rwanda. Parce que ce sont des affrontements de village à village. C'est un village qui va exterminer l'autre village. Ce sont des violences de gens qui se connaissent. C'est des gens qui se connaissent depuis des siècles, qui connaissent parfaitement la religion de l'autre. Ce qui me permet déjà de répondre à certaines idées qui ont été avancées suite aux malheureux événements de début janvier chez nous, après les affaires de Charlie et de l'hypercacher à Paris. Les violences religieuses ne naissent pas d'une ignorance de la religion de l'autre. Donc là, je me permets de répondre à une question que peut-être vous ne me poserez pas, ou peut-être vous me la poserez. Ce n'est pas en faisant des cours sur l'histoire des religions à l'école qu'on résoudra cette problématique. Ça ne découle pas de ça. Par contre, c'est une idée qui est évidemment relativement consensuelle et, je dirais, en apparence, qui a pour elle une sorte de, je dirais, de sympathie. Sauf que la problématique qui génère ce type de violence religieuse n'a rien à voir avec ce type de choses. Sauf que là, de suite, vous voyez comment on commence à remettre en cause des idées peut-être un petit peu que je peux comprendre, parce qu'elles sont souvent généreuses, elles sont souvent faciles et souvent rapides. Or, la problématique de la question de la laïcité, il n'y a pas de problème de la laïcité. Il n'y a que des religions qui ont un problème avec la laïcité. Il faut rappeler cette évidence. La laïcité n'est pas un problème, la laïcité ne pose aucun problème dans le contenu. Il n'y a ensuite que des religions diverses, plurielles, qui, pour des raisons religieuses, et non pas parce qu'on ne leur explique pas, et non pas parce qu'elles n'ont pas compris, ont un problème avec la laïcité. Donc c'est pour ça que les conflits autour de la laïcité sont des conflits parfaitement prévisibles, parce qu'ils reposent sur des fondements, au point de vue des idées, au point de vue des visions de la réalité, visions du monde, qui, pour les religions concernées, pas toutes, parce que certaines n'ont pas de problème avec, eh bien, pour elles, ça s'oppose à leur fondement idéologique, à leur postulat de principe. C'est pour ça qu'il faut, par rapport à cette question de la laïcité, ne pas attendre que les religions soient d'accord, voire il ne faut pas leur demander leur avis quant à la question de la laïcité. Et pourquoi pas demain demander à la scientologie son avis pour organiser une loi anti-secte. Permettez-moi encore une fois une idée qui peut fâcher. Donc c'est pour ça que la laïcité, il ne faut pas attendre forcément qu'elle soit acceptée par les religions. Parce que celles, évidemment, qui ont les notions, au sens de leur vision du monde, de la société, du vivre ensemble, qui leur permet de l'accepter, elles n'ont aucun problème pour l'accepter. Mais les autres, c'est antinomique avec leurs postulats et leurs principes. Et ce que je vous dis là, nous l'avons aujourd'hui, tout comme nous l'avions en 1905. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, dans les problématiques contemporaines autour de la laïcité, les opposants à la laïcité, ce n'est qu'un bis repetita, sur un mode mineur, de ce que nous avons connu lors de l'établissement de la loi de 1905 en France. Voire dans les débats au XIXe siècle sur la question de l'école, par exemple, aux environs de 1850, hein, avec la fameuse loi Falloux ou d'autres. Donc c'est pour ça qu'il est bien important de comprendre que s'il y a des religions qui sont en opposition avec la laïcité, ce n'est pas par hasard, c'est bien en raison d'une cohérence au point de vue des principes philosophiques, politique, éthique, même au point de vue de la vision du monde, que sous-tend la laïcité et que sous-tend les religions concernées. C'est pour ça qu'en France, en 1905, il y a plusieurs religions. Il n'y en a qu'une qui a eu un problème avec la laïcité. Il n'y en a qu'une qui a fait de la laïcité un problème. C'est l'Église catholique. Les autres, vous en avez entendu parler de leur opposition, de leur problématique avec la loi de 1905 ? Ce qui montre que des religions peuvent parfaitement l'accepter. Sauf que, évidemment, pour cela, dans certains cas, ça oblige à revisiter certaines positions. Ça oblige à mettre de côté une vision de la société qu'on considère d'habitude doctrinalement comme étant le modèle parfait. C'est pour ça que la laïcité, par définition, n'est pas un champ consensuel. La laïcité est, par définition, une dimension problématique, conflictuelle. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas née de la paix, elle est née de la guerre. Elle est née de la guerre pour pouvoir pacifier les rapports au point de vue de ce qu'on appelle les rapports de force au point de vue des faits religieux dans une société. Et ce que je vous dis là, si vous voulez, ce n'est pas propre à la France aujourd'hui, c'est tous les pays qui, à des degrés divers, se sont engagés dans des processus de laïcisation. Alors, le terme n'est pas toujours utilisé, le terme n'est pas toujours le même, mais la France, c'est simplement le pays qui, là, va aller peut-être parmi tous les pays, peut-être celui qui est allé le plus loin, à un moment donné, dans cette voie, mais d'autres pays ont fait un cheminement similaire sur certains points, et ils ont eu les mêmes problèmes. C'est pour ça que ce n'est pas un problème non plus franco-français, c'est vraiment un problème qui doit être ramené à ce qu'il est à la base, c'est-à-dire d'un côté des religions, certaines religions, qui ont des convictions sur le modèle politique, sur le modèle du vivre ensemble, sur la place de la femme dans la société, sur la manière de concevoir les rapports entre le politique et le religieux, et ensuite à la laïcité qui va opposer une vision différente quant à l'idée de l'homme, quant à l'idée de comment fonder l'éthique, comment fonder les lois. D'ailleurs, là ce que j'évoque, ce sont des données fondamentales de la laïcité, et c'est ce qui va expliquer ces conflits. C'est pour ça que les religions qui ne se focalisent pas sur ces problèmes-là n'ont aucun problème avec la laïcité. Et ce que je dis là, encore une fois, c'est valable, comme en 1905 ou aujourd'hui, plus d'un siècle après. Et c'est pour ça que, quand nous allons parler de la laïcité là maintenant, je vais aller le rassocier à la notion de démocratie, nous avons affaire à une sorte de problématique que l'on pourrait présenter de la manière suivante. La laïcité, en tant que notion, n'a pu naître que dans des régimes politiques, soit démocratiques, soit en voie de démocratisation. Ça, c'est un fait historique. C'est un constat. Et inversement, la laïcité ne peut être appliquée que dans quel type de situation politique, tel type de société, que dans des sociétés plus ou moins, on ne va pas discuter du détail ou du niveau, mais qui vont plus ou moins dans une logique de démocratisation. Donc là, vous avez quelque chose qui est intéressant. Ça veut dire que factuellement, on ne connaît aucun régime politique qui a pu aller vers la laïcité sans être de nature démocratique. Et vice-versa. Ce qui fait que là, ça doit nous amener à une sorte de constat, c'est qu'à ce moment-là, il doit bien y avoir une relation qui existe entre démocratie et laïcité. Et c'est ça qui va être un petit peu le sujet de ma conférence de ce soir. Alors, en sachant aussi le fait suivant, c'est que la question de la laïcité, je mets de côté un petit peu la question de la démocratie, mais la question de la laïcité, c'est une des conséquences du fait que désormais nous sommes dans des sociétés pluriconfessionnelles. Le bon vieux temps où, dans un territoire quelconque, il n'y avait qu'une loi, plutôt qu'une foi, pour rester dans le sujet qui nous intéresse, est très loin derrière nous. C'est-à-dire que quand, à l'intérieur d'un pays, quelconque, quel qu'il soit, tous les gens, toute la population, adhérer à une foi, à une religion, quelle qu'elle soit, polythéiste, monothéiste, tout ce que vous voulez, à la limite, il n'y a pas besoin d'aller vers la laïcité. Pourquoi ? Parce que, évidemment, la relation entre le politique et le religieux, le politique et l'ensemble de la société, ne pose aucun problème, puisqu'il y a une sorte d'adéquation entre ce que croient les gens et ce que vont croire les représentants au niveau politique. C'est pour ça que l'origine de la laïcité est intervenue à partir du moment où, dans un même territoire, il va falloir faire vivre ensemble, cohabiter, des gens de confessionnalités différentes. C'est pour ça qu'avant la réforme, par exemple, en Europe, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, avant cela, personne n'imaginait la laïcité. Parce qu'à la limite, je vais le dire de cette manière-là, la laïcité, on n'en avait pas besoin. Puisque tout le monde était, on va dire, à des degrés de plus ou moins catholiques, puisque les autorités temporelles, spirituelles, tout le monde était dans ce rapport à la religion. Donc la laïcité, l'idée même n'aurait pas pu intervenir à l'esprit. C'est pour ça qu'historiquement, la laïcité, on ne la connaît pas comme notion dans l'Antiquité. La laïcité est inconnue à Athènes dans l'Antiquité. Et c'est ça tout le paradoxe, alors que c'est déjà un état laïque. Mais la notion de laïcité ne pourra intervenir que lorsque des pays seront dans une situation désormais de pluriconfessionnalité, et donc se posera comme sorte de problème politique aux autorités politiques, quelles qu'elles soient, comment désormais faire cohabiter des gens ont des croyances et des convictions différentes. Et là, évidemment, il y a plusieurs possibilités. Parce qu'on peut garder, on va dire, la religion de référence, qui est celle de l'État ou de la majorité, et ensuite les autres, on peut leur donner un statut de mineur. On peut faire un statut d'exception. On peut faire, comme ça, il y a beaucoup de choses qui ont été imaginées depuis l'Antiquité, qui va permettre, par exemple, à des minorités religieuses de vivre dans un territoire. Prenez, par exemple, l'histoire du judaïsme en France, puisqu'il est beaucoup plus ancien que la Réforme. toute l'histoire du judaïsme en France ou en Europe, c'est comment faire cohabiter une minorité quantitativement religieuse sur des territoires appartenant à une autre coloration religieuse. Donc c'est pour ça que l'histoire de la laïcité naît de cette problématique-là, et c'est pour ça qu'historiquement, on la voit apparaître comme conséquence des guerres de religion. Et l'ébauche chez nous, en France, c'est par exemple l'Édit de Nantes. Alors c'est pas la laïcité l'Édit de Nantes, mais ça s'inscrit dans le mouvement historique qui va vers la laïcité. Et évidemment, cette question des rapports entre le politique et la religion va être, comme problématique, amplifiée par la nature même du pouvoir politique. C'est-à-dire que quand vous avez un régime autocratique, eh bien, face à ce problème-là, la tentation de passer par des voies autocratiques, c'est tout à fait conforme à ce moment-là avec ce mode de fonctionnement, sera le modèle généralement adopté en premier. En d'autres termes, on commencera d'abord par exterminer l'autre avant de se poser la question comment trouver vivre ensemble. C'est pour ça qu'il a fallu passer malheureusement par la Saint-Barthélemy pour penser la notion de laïcité. Ou peut-être parce qu'on n'a pas réussi à tous les exterminer. Je ne sais pas pourquoi ils ont résisté. Je ne sais pas pourquoi tous les parpaillots, là, on n'a pas réussi à les éliminer. Ça aurait été quand même plus cool si on les avait tous éliminés, comme ça, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Sauf que voilà, on n'a pas réussi à les éliminer. Donc, question, comment fait-on pour vivre ensemble? Alors, évidemment, je pense que vous avez compris que ce que je dis là, c'est de l'humour, hein, c'est de l'ironie. Mais attention, ce que je dis là ironiquement, c'est une réalité historique. La tentation d'éliminer l'autre, quand il est dans cette sorte d'antinomie, au point de vue des références, des valeurs, des principes, je peux vous affirmer que toutes les cultures y sont plus ou moins passées. Si je cite la Saint-Barthélemy chez nous, c'est parce que c'est un cas bien connu, mais vous pouvez le décliner dans pratiquement toutes les religions. Malheureusement, en la matière, là, les exceptions sont extrêmement rares. Ce qui fait que l'histoire des religions n'est pas une histoire qui se réduit à l'histoire de l'art religieux, ce n'est pas une histoire qui se réduit à l'art des cathédrales, c'est aussi une histoire de sang, de violence, de meurtre, de guerre, d'affrontement. Ça, c'est une histoire noire, sauf que c'est celle qu'on ne vous explique pas la plupart du temps dans les manuels scolaires ou quand on vous parle d'histoire des religions. C'est beaucoup plus consensuel de parler de la fête en tant que telle que de rappeler qu'à Toulouse, au moment de l'affaire Calas, en 1762, la ville, chaque année, célèbre en grande pompe un massacre intervenu pendant les guerres de religion au XVIe siècle, où 2000 protestants avaient été noyés dans la Garonne. Et c'était fêté par la cité, par les capitouls de Toulouse, et c'était, comment dire, si vous voulez, au point de vue de l'air ambiant de la cité, une fête très importante, et ça va se jouer dans l'affaire Calas. Parce que l'affaire Calas intervient juste à ce moment-là, et donc, si vous voulez, elle intervient alors que la ville est en quelque sorte rappeler à, non pas le souvenir de ce malheureux massacre, mais au contraire de ce qui a été perçu et qui était perçu par les Toulousains de l'époque, évidemment catholiques, comme étant certainement un des épisodes les plus nobles de leur histoire en tant que cité. C'est aussi ça notre histoire. Sauf que celle-là, justement, comment dire, on l'a un petit peu, on tend à nous faire oublier, hein, c'est pour ça que les religions, toutes les religions, oui, sont des sources de paix, une fois qu'elles ont contrôlé le territoire qu'elles veulent contrôler. La question, c'est comment font-elles pour y arriver à le contrôler? Alors, pour revenir à notre sujet, la laïcité, pas la laïcité, d'abord la démocratie. La démocratie, c'est dans le grand 2 dans votre plan. Comme régime politique, la notion de démocratie, sans rentrer dans toute l'histoire de la démocratie ou les subtilités de la démocratie, c'est un régime politique particulier qui a la particularité. Alors, la première expérience démocratique, c'est dans l'Antiquité, à Athènes, aux environs du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un régime politique qui a la particularité d'être intrinsèquement laïque. C'est-à-dire que la démocratie, en tant que régime politique, est par définition un régime politique laïque. Mais attention, quand je dis que c'est un régime politique laïque, je ne veux pas dire qu'il a une politique ensuite laïque. C'est-à-dire que les fondements de l'État ne reposent pas sur une conception autre que les gens qui forment l'unité politique. Puisque la notion de république, elle est pas forcément de république, mais la notion de démocratie, elle repose sur le fait que l'autorité politique émane de qui ? Émane des citoyens, émane du démos, hein, c'est dans le terme démocratie. En d'autres termes, et ça on l'a dit à Athènes, hein, dans l'Antiquité, ce ne sont pas les dieux qui fondent la légitimité du pouvoir athénien, c'est l'ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée des citoyens. En d'autres termes, le fondement politique, je prends l'exemple d'Athènes, comme démocratie par Éphialte, Périclès ou d'autres, c'est un pouvoir qui est laïque. Les dieux, Zeus, n'interviennent pas pour justifier, légitimer ou donner une validité au pouvoir de la cité. Ce qui est donc totalement différent d'un système théocratique comme dans l'Égypte pharaonique. Ce qui est totalement différent des logiques, par exemple, de monarchie divine que l'on a à la même époque, ou de rois-prêtres dans de je ne sais combien de pays à la même époque. C'est pour ça qu'une des particularités de la notion donc de démocratie dès l'Antiquité, c'est que comme régime politique, il ne repose pas sur des conceptions politiques pour s'organiser comme unité politique. Ce qui ne veut pas dire que la cité d'Athènes n'avait pas ensuite un soutien au culte, au culte antique, mais elle le faisait de son propre chef et non pas parce qu'une autorité religieuse l'exigeait d'elle. C'est pour ça qu'une des particularités un petit peu étonnantes de la démocratie, c'est que comme elle ne repose que sur l'autorité des hommes, c'est-à-dire c'est une collectivité basée sur le contrat social, l'autorité émane seulement donc des citoyens, le gouvernement est désigné par les personnes concernées, les représentants du gouvernement sont eux-mêmes issus de ce peuple-là, ce n'est pas par exemple une aristocratie de prêtres, ce n'est pas une caste, ce n'est pas, si vous voulez, une sorte de personnes qui sont investies de fonctions sacerdotales. Donc c'est pour ça que l'idée même de démocratie, sans que les antiques d'ailleurs s'en rendent compte, c'est que c'est un pouvoir politique qui ne repose pas sur l'adossement à la religion. Et ça, dès l'Antiquité, c'est déjà une sorte d'exception au point de vue des structures politiques, puisque l'immense majorité des schémas politiques dans l'Antiquité sont plus ou moins adossés. Regardez du côté des Perses, regardez du côté des grandes cités mésopotamiennes, regardez même du côté des plus tard, ce que sera Rome, avec par exemple la notion d'empire. Bon, voilà. Rien que cette idée-là de la démocratie dans l'Antiquité, même si personne ne s'en rend compte, de cette dimension novatrice extraordinaire, c'est que c'est déjà un régime laïque. Sauf que ce n'est pas parce que l'État, dans ses fondements, est laïque, qu'ensuite, il décide d'avoir une politique que l'on peut qualifier de laïque. Ce que nous identifions d'habitude à la notion de laïcité, c'est-à-dire la loi de 1905. Dans la loi de 1905, c'est l'État français qui décide de faire quoi ? Je reprends les deux articles, de ne plus financer, de ne plus soutenir un culte. D'accord ? Donc c'est sa propre décision. Mais finalement, c'était aussi sa propre décision qui faisait quoi ? Qu'antérieurement, il avait décidé de les financer et de, entre guillemets, d'assurer ce type de fonction. Donc c'est pour ça que cette notion-là est déjà très intéressante, parce que ça veut dire que la démocratie est structurellement un type de régime politique qui n'est plus adossé sur aucune autorité religieuse. Ce n'est pas propre à la France en tant que démocratie. Revisiter la Constitution des États-Unis lors de leur création à partir de 1776. Le fondement de l'autorité politique aux États-Unis, malgré les apparences où on fait prêter serment sur la Bible, etc., etc., tout ça, c'est en fait, il faut aller beaucoup plus loin que ces images d'Épinal. L'autorité politique aux États-Unis ne repose pas sur Dieu, elle repose sur quoi ? Sur un modèle de type démocratique basé sur l'idée du contrat social. Donc c'est pour ça que ces notions-là ne sont pas propres à notre pays en tant que tel, même du côté de la Hollande. Allez, faisons un petit détour du côté de la Hollande. Lors de la création de la République des Provinces Unies au XVIIe siècle, ce qui fonde l'unité de la République des Provinces Unies, ce n'est pas la confessionnalité, puisqu'en plus, en Hollande, ce sera un pays de pluriconfessionnalité et, dans les limites de l'époque, de relative tolérance, bien de relative tolérance, comparativement aux autres pays. Puisque vous avez des luthériens, des calvinistes, des quakers, des mennonites, des croyants non identifiés, on ne sait pas trop comment toujours les placer, puis vous avez même un Spinoza. Or, Spinoza, on n'est pas venu frapper à sa porte en lui disant « Monsieur, vous n'avez pas le droit d'être, vous avez même une importante communauté juive, tout court en Hollande à cette époque-là, on ne vient pas les voir en leur disant « Non, vous n'avez pas le droit parce que l'État serait confessionnel ». Donc c'est pour ça que ce que je vous explique là n'est pas propre à l'histoire de la France dans sa construction démocratique, ce sont des notions structurantes que l'on retrouve dans tout processus démocratique. Ensuite, la France, elle l'a vécu à sa manière, sa coloration, si vous voulez, au point de vue de sa propre histoire. Mais les principes ne sont pas franco-français. Ce qui fait que, dans une démocratie, l'idée de la fondation politique, c'est l'homme. C'est-à-dire le fameux zoon politikon, comme dit Aristote, c'est-à-dire en tant qu'animal politique. Et cette notion, donc, veut dire que dès l'histoire de la démocratie est associée à la laïcité. Sauf que le mot n'existe pas. L'idée n'a pas encore été élaborée pour désigner ces structures politiques. Donc elles existent, mais elles n'ont pas de mots pour les désigner. Elles sont pratiquées, mais elles ne sont pas perçues dans la dimension novatrice. Quand les Grecs, Périclès, Platon et les autres, Aristote, parlent de la démocratie, ils parlent de l'importance de la liberté, de la cité par rapport à d'autres types de régimes politiques. Ils ne parlent pas de cela. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils n'en parlent pas que cela n'est pas acté. C'est pour ça d'ailleurs que si vous connaissez un petit peu l'Antiquité grecque, notamment d'Athènes, il y a une histoire qui est amusante. Pourquoi la ville d'Athènes s'appelle Athènes ? Alors, ça renvoie à Athéna, oui. Ça va, jusque-là on suit. Oui, mais pourquoi ? Est-ce que c'est une cité qui est fondée par Athéna ? La réponse, pas du tout. Ce n'est pas du tout une cité fondée par Athéna. C'est au contraire une sorte de relation d'égal à égal qui va intervenir entre les autorités politiques. Alors on ne sait pas trop si c'est de l'histoire, hein, on ne pense pas que c'est de l'histoire, mais le mythe le met bien en scène. C'est-à-dire qu'un jour, la cité, constituée comme unité politique, cherche un soutien, une protection auprès des dieux. Pour se défendre, si des Spartiates arrivent, les Athéniens, ils se débrouillent tout seuls. Mais face à ce qui relève des forces surnaturelles, tout le monde y croit à cette époque-là, mieux vaut avoir un dieu avec soi. Sauf que, ben, lequel prendre ? Ils sont plusieurs, les Olympiens. Donc, à Athènes, on fait un appel d'offres. On dit, eh oh, les dieux, bon, vous comprenez qu'ils n'ont pas dit comme ça, hein, mais ça revient à ça, eh oh, les dieux, on cherche une divinité pour nouer une relation contractuelle où, en échange d'un culte, vous nous protégez. Et donc là, il y en a deux qui ont sollicité, hein, qui ont répondu à l'appel d'offres, voilà, c'est Athéna et Poséidon. Et c'est comme ça que la ville va devenir, donc, Athènes telle que nous la pensons, associée à la déesse Athéna, mais pour cela, la déesse, elle va devoir montrer que le service qu'elle pouvait rendre à la cité était meilleur que le service de Poséidon. Alors, dans le détail, ça renvoie à l'histoire de l'olivier que Athéna va apporter à Athènes, alors que Poséidon apporte un cheval extraordinaire, sauf que les Athéniens vont préférer l'olivier au cheval. Mais ça veut dire, à ce moment-là, que ce sont les Athéniens qui négocie, en quelque sorte, qui dialogue sur cette dimension contractuelle avec la divinité dans un donnant-donnant. C'est-à-dire, en échange du culte dit Poliade, le culte de la cité, les dieux sont chargés de protéger. Mais ce n'est pas les dieux qui imposent le culte et ce ne sont pas les dieux qui fondent l'autorité de la cité. Donc même dans la notion de la mythologie grecque, on peut se rendre compte que les fondements des structures politiques étaient, dès cette époque-là, dégagés du rapport aux religieux. Ça ne veut pas dire que les politiques ne croyaient pas, ça veut dire simplement que pour fonder le politique, on n'avait pas besoin de Zeus ou des autres. Les Olympiens trônaient sur l'Olympe et les hommes se démerdaient dans ce qui relevait du parterre de l'humanité. Ensuite, il fallait respecter et rendre aux dieux ce qu'on devait aux dieux, mais ensuite, pour ces sphères-là d'un entre nous, ça ne regardait que les hommes. Sauf que cette structure laïque dont je vous parle, de l'État dans la démocratie, ce n'est pas ce que nous percevons sous la notion de laïcité. Parce que ce dont je viens de vous parler, c'est les structures politiques, c'est-à-dire les fondements politiques qui fondent le pouvoir concerné. Nous, ce que nous connaissons, c'est la politique laïque mise en œuvre par un État. C'est ce que nous identifions à la laïcité. Par exemple, on fonde une école nationale et non pas une école confessionnelle, on ne finance plus, ou au contraire, on déciderait de financer. C'est ce que nous percevons. Et là, il ne s'agit plus des fondements de l'autorité politique, mais de la politique mise en œuvre par cette structure politique. Et donc, si on ne voit que la politique mise en œuvre par l'État dans une démocratie, on ne voit pas forcément une relation intrinsèque entre démocratie et laïcité. Pourquoi ? Parce qu'un État démocratique, donc de structure laïque, peut très bien faire le choix de soutenir une religion. Peut très bien faire le choix, par le biais d'un concordat, par exemple, de financer la religion majoritaire de sa population. Et en général, démocratiquement, les gens voteront pour, puisque ça revient à voter pour leur propre religion. Surtout qu'à cette époque-là, n'oubliez pas, la religion, au sens de l'Église, des structures des religions, remplissent des fonctions sociales. La sécurité sociale n'existait pas. Qui s'occupait, dans l'Ancien Régime, de l'aide aux pauvres ? Qui s'occupait de l'école ? N'oubliez pas que pendant très longtemps, les religions étaient chargées de missions sociales, indépendamment de leur mission, on va dire, salvatrice, entre guillemets, spirituelle. Donc c'est pour ça qu'il va falloir du temps pour qu'on arrive à la loi 1905, puisqu'il va falloir transférer ces activités qui étaient faites par les églises, les structures, par exemple, du clergé, à des structures de fonctionnaires d'État. L'exemple connu, c'est l'État civil. Mais en fait, c'est pour toutes les structures qui antérieurement étaient le fait de l'Église. Alors, je prends l'Église parce qu'en France, c'est plus simple, mais le processus est équivalent dans tout pays qui va connaître un phénomène dit de sécularisation. En France, au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, les cimetières, ils sont tenus par qui ? Les cimetières, ça ne se décline qu'aux religieux. Donc, il va y avoir, ça c'est beaucoup moins connu que la laïcisation de l'État, la mise en place de l'école laïque, il va falloir laïciser les cimetières. Qui détient, qui s'occupe des hôpitaux en 1801 en France ? Qui assure les soins aux malades ? Ce sont des ordres généralement de bonnes sœurs. Ce sont des hospices. Qui s'occupe des vieillards ? Qui s'occupe de ce qu'on appelle le volet social ? C'est l'Église. Et c'est pour ça qu'une grande partie du budget de l'Église, à cette époque-là, est utilisée à ça. Ce n'est pas utilisé que pour les Églises, c'est aussi aux Églises. Mais est investi de ses fonctions sociales. Donc il va falloir, au XIXe siècle, transférer ces fonctions qui étaient exercées par cette Église-là à des structures relevant de l'État. Donc on a l'État civil, on a les cimetières, on a les hôpitaux, on a comme ça toute une série de processus qu'il va falloir transférer. Donc il va falloir créer des corps spécialisés de fonctionnaires. La création d'une école, vous n'arrivez pas en disant « Tiens, je veux faire une école nationale, qu'est-ce qu'il vous faut pour la faire ?» Il faut des enseignants. Donc il va falloir les former. Donc c'est quelque chose de très lourd, de très complexe. Voilà. Et ne vous y trompez pas, au XVIIIe siècle en France, l'Église enseigne, et si on prend la Révolution française, la France a basculé dans un pays qui est majoritairement un pays qui sait lire et écrire. Et cela grâce au travail d'enseignants, donc qui sont, pour l'immense majorité, des curés, des ecclésiastiques, des abbés quelconques. Depuis l'école, pas maternelle, ça n'existe pas, mais depuis l'école, entre guillemets, primaire, ou des équivalents, jusqu'au niveau des collèges et lycées. Donc ne tombez pas dans l'image un petit peu caricaturale du XIXe siècle, où l'Église n'aurait jamais fait ce boulot-là. L'Église, elle a très bien fait ce boulot-là, et c'est de ce boulot-là que sont nés les Diderot, les Voltaire, les Descartes, etc., etc. Donc c'est pour ça que souvent on a un petit peu une image réductrice de ce processus, sauf qu'au XIXe siècle, quand on veut mettre en place une éducation qui est désormais dégagée de la tutelle de l'Église, c'est là où l'Église va surtout réagir, non pas parce que, elle voudrait garder le monopole de l'école, parce que l'Église peut très bien ne pas être investie de cette mission-là, mais parce qu'elle se rend compte que ce faisant, elle perd le contrôle sur les enfants. C'est principalement à ce moment-là que va naître la guerre scolaire. Non pas pour l'idée de l'éducation, mais en réalité pour l'idée du contrôle sur les états d'esprit des futurs adultes. Donc c'est pour des questions qui ne relèvent pas de considérations pédagogiques, mais bien pour des questions de contrôle au point de vue de la société, parce que désormais, ce n'était pas que les maîtres d'école n'allaient pas enseigner le catéchisme. Ça, l'Église n'aurait eu aucun problème avec ça. C'est surtout que désormais, ça veut dire qu'un discours différent pourra être transmis aux enfants au point de vue du modèle politique, du modèle social, des valeurs, des principes, de la vision du monde. C'est pour ça que tant que l'Église était devant une école qui allait dans le sens de ce qu'elle disait, elle n'a eu aucun problème vis-à-vis de cette école-là. Intéressez-vous à d'autres pays européens, vous verrez que ça n'a pas eu du tout la même cette dimension conflictuelle entre l'Église catholique et, on va dire, un régime républicain, à peu de choses près, autour de la question de l'école. C'est ne s'est pas du tout passé de la même manière dans d'autres pays. Ça, c'est parce que la France a été beaucoup plus radicale sur le processus. Donc, une autre idée qui est importante à comprendre, c'est que non seulement donc, dans l'idée de démocratie, elle est structurellement laïque, mais ensuite, une démocratie a des devoirs à l'égard de la religion. Toute démocratie a des devoirs à l'égard de la religion. Alors, en réalité, ce n'est pas la religion, c'est à l'égard des personnes qui croient. mais non pas parce qu'elles sont croyantes, mais parce que ce sont des citoyens de l'État concerné. Et malheureusement, l'actualité d'aujourd'hui, je pense que comme vous, je l'ai appris ce matin en écoutant la radio, le premier devoir d'une démocratie à l'égard de la religion, notamment quand il y a une pluralité confessionnelle, c'est de mettre en place une égalité de tous devant la loi. Faire en sorte qu'il n'y ait pas un traitement différencié parce que vous seriez de telle ou telle confession. C'est le premier devoir d'une démocratie face aux questions religieuses. Faire en sorte que telle personne soit assujettie aux mêmes lois, aux mêmes règles, à la même justice, par exemple, au même code de loi, pour le mariage, pour la propriété, pour l'héritage, pour tout ce que vous voulez, que les autres, et non pas un droit différent parce qu'elle serait d'une confession différente. Puisque je vous rappelle quand même, l'égalité fait partie des principes, point de vue politique, qui fondent la démocratie. Ensuite, autre type de, on va dire, de devoir de la démocratie par rapport à la religion, c'est l'acceptation de la diversité d'idées et d'opinions dans la cité. La liberté de penser, c'est donc aussi la liberté de croire, même si ce qu'on croit est faux, même si ce qu'on croit n'existe pas. Même si la croyance peut paraître fantasque, la question n'est pas là. La liberté de conscience, la liberté de penser, n'est pas due à la vérité à l'égard de quoi on croit. Sinon, qu'est-ce que vous réintroduisez ? Vous réintroduisez une notion d'orthodoxie face à une notion d'hérésie. Donc ce qui est au cœur, par exemple, de la déclaration de 1789, la déclaration des droits de l'homme, avec l'article sur la liberté de conscience et de penser, ça ne concerne pas la validité de quoi nous pensons. Ça concerne simplement le fait que vous puissiez, même si vous êtes d'avis divergent avec vos voisins, que vous ayez le droit de le penser. Donc on ne vous persécute pas ou qu'on ne vous menace pas parce que vous n'allez pas dans le sens des croyances communes de la société. Donc ça, c'est une sorte de deuxième devoir d'une démocratie à l'égard de toute religion, hein, quelle qu'elle soit. Et l'autre, le troisième de ces devoirs en quelque sorte, c'est garantir les libertés fondamentales et le respect des droits humains. Une démocratie qui ne respecte pas les libertés individuelles fondamentales n'est pas une démocratie. Point barre. Une démocratie qui ne respecte pas les droits humains est insuffisamment démocratique. Point barre aussi. On n'a pas le temps de tout voir à discuter à chaque fois dedans, mais c'est des notions qu'il faut retenir. Or, la liberté, comme je disais, de croire, la liberté de culte, relève de ce fait des droits de l'homme. Ce qui fait que, en France, l'État laïque a une fonction bien particulière en la matière, c'est permettre aux gens qui croient de pouvoir vivre leur religion sans qu'on les massacre, sans qu'on les tue, sans qu'on les menace. Attention, ça ne veut pas dire financer, ça ne veut pas dire soutenir en tant que tel, telle foi, tel dogme. Ça veut dire simplement que chacun d'entre nous, en démocratie, doit pouvoir se placer sous la protection de la loi pour mener ses activités personnelles. Sauf que là, il s'agit, dans le fait de la religion, d'une activité personnelle, mais qu'à ce moment-là, le devoir de la démocratie, d'une république, c'est de protéger les gens qui voudraient, alors qu'ils ne nuisent à personne, alors qu'ils ne, si je puis dire, n'emmerdent personne à ce niveau-là, de pouvoir vivre librement leur culte. Ce qui fait que quand nous pensons la laïcité dans le rapport à la démocratie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation de l'État à l'égard des religions. Sauf qu'il ne s'agit pas donc de bâtiments financés, etc., etc. Ça veut dire simplement, voilà, si des gens veulent croire, tout comme s'il y a des gens qui ne veulent pas croire, de pouvoir leur garantir cette liberté de penser, d'être, de vivre leur vie, de poursuivre leur chemin dans le pays concerné. Parce que, oui, aussi, notion très importante, la laïcité ne concerne pas que les croyants. La laïcité concerne tout autant les non-croyants. Donc moi, je vais demander à l'éducation nationale, puisqu'ils veulent faire des cours de religion à l'école, il y en a déjà en partie, en tout cas des cours sûrs, pas des cours de catéchisme, je vais demander à ce qu'il y ait des cours qui expliquent l'athéisme, l'agnosticisme, parce que ça n'a rien à voir. Attendez, ne mêlez pas les athées et les agnostiques, c'est comme si vous mélangeriez, je ne sais pas, un anglican et un papiste. Ah mais attendez, pourquoi, quand on veut parler de laïcité aux gamins à l'école, la seule idée que l'on vient à avoir dans les hautes autorités de l'éducation nationale, c'est de présenter, pourquoi pas, tel aspect de la chrétienté, de l'islam, du judaïsme, et l'athée n'existe pas. L'athéisme n'existe pas. Alors que si on veut faire un véritable enseignement sur ces questions-là, il faut aussi expliquer le fait athée aux élèves. Je vous rappelle que la dernière grande communauté de pensée aujourd'hui planétairement persécutée, ce sont les athées et les agnostiques. Vous n'en rendez pas compte parce que dans nos pays, ça ne se trouve pas. Mais essayez d'être athée en Arabie Saoudite, ça vaut 1000 coups de fouet. Essayez d'être athée dans certains régimes de ce type-là, vous verrez la dimension problématique. C'est pour ça que quand nous parlons de la laïcité, généralement quand on veut faire un débat sur la laïcité quelconque, vous verrez qu'en France même, on ne s'occupe pas de l'Arabie Saoudite ou de Riyad, en France même, on fait venir un représentant de l'Église catholique, un représentant de l'Église réformée, un rabbin par-ci, puis si on trouve une nonne bouddhiste tibétaine, c'est vrai qu'ils sont nombreux dans notre pays, ils sont vraiment représentatifs du paysage religieux français, sauf qu'il y a toujours une communauté qu'on oublie. C'est les athées, les agnostiques et autres, on va dire, non-croyants, non-identifiés ou mal-identifiés. Or, si vous voulez que l'école prépare un vivre ensemble sur la question de la laïcité, il va falloir enseigner le fait athée. Il va falloir expliquer qu'un athée peut être quelqu'un d'aussi moral que quelqu'un qui est croyant. Il faudra expliquer, contrairement à ce que dit le pape et toutes les autorités religieuses, que ce n'est pas parce qu'on est athée qu'on va être marqué par l'égoïsme et la cupidité. Il faudra rappeler que ce n'est pas parce qu'on est athée qu'on est pédophile. Il faudra rappeler au pape actuel que la crise financière n'est pas née de l'absence de valeur morale du côté des athées. Que je sache, Goldman Sachs n'est pas une officine athéiste. Que je sache, toute l'histoire du capitalisme, on ne peut pas dire qu'elle a été particulièrement effectuée par des athées mécréants et autres agnostiques. Il doit y en avoir dans le tas comme les autres. Mais il faudra me démontrer que depuis, je ne sais pas, Adam Smith en passant par les autres, il soit athée. Or, je peux vous affirmer qu'encore aujourd'hui, le discours ambiant que vous pouvez facilement entendre, c'est que les athées... Alors, évidemment, ce n'est pas les athées en tant que tels, on ne va pas le dire comme tels. On va dire, c'est la perte des repères moraux. C'est la perte, de toute une série de notions qui, dans le discours de l'Église catholique, est évidemment associée à la progression de l'athéisme et de l'agnosticisme. Parce que pour eux, évidemment, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez être qu'égoïste. L'individualisme, pour eux, est associé à la non-croyance, parce que eux, évidemment, mettent en avant l'idée, on va dire, de personne qui s'oppose à la notion d'individu. Mais en réalité, ce sont, si vous voulez, c'est des sortes de discours purement rhétoriques qui servent à rejeter, dans ce qu'on appelle la crise spirituelle au XXe siècle, la faute des problèmes de notre présent sur le recul de la religion, et de présenter ensuite le retour du religieux comme la solution pour faire face à quoi ? Pour faire face aux problèmes que nous connaissons socialement. Je peux vous rappeler quand même, de manière un petit peu ironique, qu'en 2000 ans d'histoire, le christianisme, en termes d'équité sociale et de justice sociale, il n'a pas beaucoup d'éléments en faveur de ce type de position. Le capitalisme du XIXe siècle, il n'est pas né des athées, des mécréants. Sauf que le discours qui est toujours tenu, il suffit d'écouter, d'examiner les discours des autorités ecclésiastiques, catholiques, chez nous, ou à Rome, au point de vue de la papauté, vous verrez que les mots de nos présences, il y a par exemple une crise au point de vue économique, la finance internationale, ce n'est pas un problème de structure de fonctionnement de l'économie. C'est parce qu'il y a des gens cupides, immoraux, pétris d'égoïsme qui ne pensent qu'à eux. C'est-à-dire qu'ils font de ce qui est un problème de structure économique un problème moral, et évidemment un problème moral généré par quoi ? Par, pour eux, la régression de la religion. C'est bien connu, pour paraphraser un ouvrage de Dostoïevski, mais si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Donc c'est pour ça qu'évidemment, à l'époque du XVIIIe siècle, les athées ne sont pas suffisamment nombreux pour avoir une représentation, mais aujourd'hui, les athées, les agnostiques et autres, comme je disais, objets non-croyants mal identifiés, n'ont aucune représentation. Or, d'après les études en France, ça fait peut-être à peu près, ça dépend qu'est-ce qu'on compte, mais entre le déclaratif et l'effectif, il y a des différences, mais grosso modo, ça va à peu près entre comment dire, dans l'état actuel, entre 10 et 20% de la population. Sauf que vous verrez que jamais on ne demandera, sur les questions concernant l'avortement, concernant le droit, les problèmes bioéthiques, jamais on ne fera venir un représentant, on va dire, des non-confessionnalités. Vous verrez que les comités éthiques, vous retrouverez essentiellement des gens qui se positionnent dans ces grandes familles-là de pensée, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il ne faut pas s'étonner des réponses qu'ils proposent. Vous mettez 10 thomistes dans un comité d'éthique, vous mettez 5 luthériens dedans et vous adjoignez un ou deux, je ne sais pas, d'autres tendances, c'est sûr que les colorations des réponses qu'ils donneront seront au prorata. Donc c'est pour ça que la notion donc de démocratie, comme je disais, a bien des devoirs à l'égard de la religion. Mais ce sont des devoirs très précis, c'est celui de pouvoir protéger la pensée, la vie de chacun d'entre nous, dans le fait d'avoir une croyance ou dans le fait de ne pas avoir de croyance. C'est pour ça que sur cette question-là, on peut considérer que les devoirs religieux d'une démocratie peuvent s'énoncer de la manière suivante. Autonomie et séparation des différentes sphères entre le politique, les structures de l'État et le religieux, tout religieux. La dissociation de la citoyenneté et de l'appartenance religieuse, mais aussi philosophique, idéologique, politique. En d'autres termes, la religion ne peut pas être un critère de la définition de la francitude. Permettez-moi le néologisme, moi ça vous fera rigoler. Hein. Donc le fait d'être croyant dans telle confession n'est pas, comme en Grèce, un critère, en tout cas dans une conception d'une véritable démocratie, un critère qui définit l'appartenance à l'unité politique. Ça veut dire aussi liberté de culte, liberté de pensée, liberté de conscience, et surtout l'égalité des droits et devoirs du citoyen, quelle que soit la religion ou l'absence de religion. C'est pour ça que si ces principes-là ne sont pas respectés, vous pouvez considérer, même si le mot laïcité n'est pas indiqué, que soit c'est une violation de la laïcité si l'État concerné recherche la laïcité, soit il est insuffisamment laïque s'il se veut un État démocratique. Parce que nous avons ensuite une autre notion qui est importante à avoir à l'esprit, c'est que pour régler la question du vivre ensemble confessionnel dans un pays, quelle solution un État... Alors, on ne s'occupe pas d'une dictature, on ne s'occupera pas là désormais d'un régime non démocratique, mais quelles sont les solutions que peut avoir un régime qui se veut démocratique pour gérer la problématique de la pluralité de confession? C'est-à-dire comment garantir une sorte de paix au point de vue de la société civile, sur le plan religieux et sur le plan politique, quand vous êtes un État démocratique. Quels sont les dispositifs institutionnels que vous pouvez mettre en œuvre? Si vous êtes dans une tyrannie, on ne se posera pas beaucoup la question, on peut ordonner que tout le monde passe à la religion concernée, sinon, on les tue ou ils prennent la valise. Ça s'est longuement fait. Hein. Pendant très longtemps, la doctrine en Europe, c'était... Alors je ne vais pas vous le dire en latin, mais c'était, un pays, un roi, une loi, une foi. Donc on avait une sorte là de jeu, tel pays était luthérien, tel pays était calviniste, tel pays était catholique, et puis voilà. Il n'y avait pratiquement pas de pays pluriconfessionnel en Europe. Les exceptions principales, c'était... Il y avait deux grandes exceptions en la matière. Alors, il y avait la Hollande, mais surtout, il y a eu la France avec l'édit de Nantes, pendant le temps de l'édit de Nantes, et ensuite vous aviez du côté de la Bohême-Hongrie. Puisqu'en fait, je reviens à ce que je disais, ils n'avaient pas pu s'exterminer mutuellement, donc en fait, l'équilibre des forces était tel qu'ils avaient dû trouver une cohabitation entre catholiques et protestants dans ce pays-là. Et sinon, tous les autres pays européens, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Angleterre aussi, hein, l'a fait. Hein, tous les non-anglicans en Angleterre, soit ils étaient papistes et ont fini dans les prisons ou dans le bûcher, soit ils étaient protestants, hétérodoxes, et ils ont fini expulsés. C'est l'histoire du Mayflower, par exemple. Hein, voilà, donc l'anglicanisme n'est pas plus tolérant que le catholicisme. Vous connaissez tous Thomas More, ce grand humaniste de la Renaissance. Vous connaissez au moins le nom, peut-être. L'auteur de l'Utopia. Ah, ça y est, ça commence à se réveiller dans la salle. Sauf que ce charmant Thomas More va avoir aussi une carrière d'homme politique, de premier ministre, de mémoire. le roi anglais. Terrible. Le roi que je cite 10 fois par semaine, et puis là j'ai un trou de, comment dire, de mémoire. Henri VIII. Voilà. Henri VIII. Voilà. Sauf que quand il fut ministre, lord chancelier, plus précisément d'Henri VIII, c'est lui-même qui va diriger les persécutions contre les protestants en Angleterre. C'est lui-même qui instruira les procès et qui enverra sur le bûcher un certain nombre de protestants. Donc vous pouvez lire avec très grand intérêt philosophique l'Utopia, mais notre cher ami Thomas More, il n'était pas du tout prêt à accepter une sorte de liberté de conscience telle que chacun puisse croire librement en la matière. Donc il a préféré rester fidèle à Rome pour l'histoire d'un mariage plutôt que d'accepter que des gens puissent vivre leur confession, leur foi. Alors évidemment, il n'avait pas, si le roi le voulait, il ne pouvait pas s'y opposer, mais rien ne l'obligeait à collaborer à cela. Donc c'est pour ça que ce cher Thomas More, qui sera exécuté in fine par Henri VIII, ce que souvent on présente comme un martyr du côté de l'Église catholique, il ne faut pas oublier qu'en son temps, avant d'être lui-même envoyé sur l'échafaud, il va envoyer sur l'échafaud de nombreux protestants. Comme quoi, l'histoire n'est pas forcément faite de personnages aussi blancs qu'on pourrait le penser à chaque fois. Et qui montre aussi la complexité des rapports entre politique et religieux. C'est pour ça que, donc, pour un État démocratique, les possibilités de gérer les rapports confessionnels dans son territoire, il n'y en a pas beaucoup. Les solutions, il y a une première grande catégorie de solutions, ce sont ce qu'on appelle des solutions qui sont des alliances, c'est-à-dire des alliances entre le politique et le religieux. Tout d'abord, on va avoir des États, par exemple, de type concordataire, comme nous on a connu. C'est-à-dire que l'État fait un contrat avec une église quelconque, une religion quelconque, en disant, ben voilà, voilà ce que je fais, voilà vos fonctions, voilà ce sont nos relations mutuelles. Donc c'est l'État qui, à ce moment-là, met en place un concordat. Nous, on le connaît en France avec celui de Napoléon, qui sera justement interrompu par 1805. Mais il faut savoir, en fait, que des concordats, il y en a en France depuis le XVIe siècle. Même avant, je pensais au concordat de Bologne, mais on peut remonter avant, parce qu'en fait, c'est une institution qui date de l'Ancien Régime, le concordat. C'est pour ça que l'Église de France était relativement autonome par rapport à Rome, parce qu'elle était dans un cadre concordataire, ce qu'on appelle l'Église gallique. Alors, une logique concordataire, ça permet à un État donné de pouvoir nouer des contrats de fonctionnement avec un certain nombre de religions qu'il reconnaît, comme par exemple en Allemagne. Le problème, c'est que cet État-là, automatiquement, privilégie des religions données celles qui sont impliquées dans une logique concordataire. Et donc des religions minoritaires ne sont pas prises en compte, évidemment, par le contrat. Donc le concordat classique qui s'arrête en 1905, c'est un concordat qui est établi avec l'Église catholique, luthérienne, calviniste et le judaïsme. Donc toute autre représentation religieuse en France, à cette époque-là, ne pouvait pas être dans une logique concordataire. Donc dans un État qui se voulait démocratique, comme sous la Troisième République, il y avait d'un côté des religions qui étaient soutenues, entretenues, où les prêtres, les bâtiments étaient financés par les deniers publics, et admettons des gens qui auraient eu une religion autre, évidemment, n'auraient pas été concernés par ce financement public. Donc on voit très bien qu'à ce moment-là, le régime concordataire est un régime intéressant, mais finalement, c'est l'État qui... C'est intéressant dans un premier temps, mais dès qu'on y réfléchit, eh bien on se rend compte que c'est l'État qui est jugé parti de qu'est-ce qui est une vraie religion ou pas. En vertu de quoi un État reconnaît que ceci ou cela est une religion. Alors, si vous voulez rentrer dans ce type de problématique, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de trouver la quadrature du cercle que de répondre à cette question. Parce que tout État qui va définir, comment dire, ce qui est une religion légitime ou pas, évidemment, prend position sur des questions doctrinales et théologiques. En d'autres termes, c'est un État qui, en tant qu'autorité temporelle, prend le droit de dire quel est le vrai théologique, quel est le faux théologique, quel est le vrai religieux, quel est le faux religieux, quel est le vrai Dieu, le vrai divin, ou le faux Dieu. Donc évidemment, ce sera le reflet des croyances et des convictions moyennes de la part du gouvernement concerné, ou en tout cas des citoyens concernés. Donc c'est pour ça que le régime concordataire, en apparence, est une pacification, parce qu'il neutralise les rapports de violence entre les religions entre elles, mais par contre, ça maintient une inégalité de traitement des citoyens en raison de considérations religieuses. Nous avons aussi une autre solution, très largement utilisée par les régimes politiques, alors pas en France, mais dans d'autres pays d'Europe, c'était les états confessionnels. Alors, un état confessionnel, ce n'est pas un état concordataire, parce qu'un état concordataire, l'état n'a pas de religion, mais il noue un contrat de fonctionnement avec un certain nombre de religions. Tandis qu'un état confessionnel, c'est que l'état a une religion, c'est une religion d'état, qui peut ne pas être imposée à tout le monde, c'est-à-dire à la limite, vous êtes libre de ne pas aller à l'église, vous êtes libre de ne pas aller à la messe si vous voulez, mais par contre, l'état a organiquement une religion. Et ça a été pendant très 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 longtemps, et ça l'est encore, il y a des reliquats, du côté de tous les pays de l'Europe du Nord. La Hollande a une église nationale qui pendant longtemps était donc un état confessionnel. La Norvège, la Suède, le Danemark, tout ça proviennent historiquement de pays qui étaient des états confessionnels. Ça ne veut pas dire que tout le monde était obligé de croire. Parce qu'on peut, avec un état confessionnel, garantir la liberté de conscience. De même, un état concordataire peut garantir la liberté de conscience. Sauf que par ailleurs, ils passent leur temps à faire quoi ? À privilégier une église d'État officielle, par exemple, comme au Danemark au XIXe siècle ou jusqu'au XXe siècle, ou bien par un contrat, donner une prépondérance structurelle et fondamentale à une religion ou à un ensemble de religions au détriment des autres. C'est pour ça que toutes les solutions qu'un État qui se veut démocratique peut mettre en place pour régler ces questions-là, à travers une logique de sécularisation aussi, c'est toujours une solution qui est une solution bancale. Parce qu'à chaque fois qu'il adopte une solution comme ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il viole des principes fondateurs de la démocratie, notamment ce qu'on appelle l'isonomie. L'isonomie, c'est l'égalité des citoyens devant la loi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un État démocratique, comme j'ai dit, si c'est une dictature, si c'est la Poutine, évidemment ce que je dis là n'a pas de sens. Mais si c'est une démocratie, ou un État qui se veut démocratique, toute solution qu'il adoptera de manière non laïque, introduira des principes, on va dire par exemple, de distorsion de l'égalité des citoyens devant la loi. Parce que par exemple, il y en a qui vont être avantagés. Prenons le cas par exemple de l'enseignement du fait religieux à l'école. La question c'est oui, mais quelle religion ? L'idée commune, moi j'ai déjà eu des débats comme ça au Méric avec Régis Debray et d'autres personnes déjà dès cette époque-là quand il y a eu ce type de projet, qu'on explique ce qu'est le phénomène religieux, oui. Qu'on explique ensuite telle religion, oui, mais pourquoi plus celle-là qu'une autre ? Si ce n'est, à ce moment-là, accorder une prime aux religions majoritaires. Sur le principe, la France est un pays largement de culture catholique, donc à peu près tout le monde ne sera pas choqué qu'on enseigne, par exemple, les principes du catholicisme, des choses comme ça, ce qui, sur le fond, moi, ne me pose pas non plus de problème. Mais ça veut dire que si vous avez des gens qui appartiennent à d'autres religions, pourquoi, là, on va parler du catholicisme, et pourquoi on ne va pas parler de cette autre religion, sauf parce qu'elle est minoritaire ? C'est quoi un traitement qui, normalement, se doit d'être égalitaire dans une démocratie, si finalement, le traitement en la matière est un traitement qui est fait simplement parce que vous êtes majoritaire et ceux qui sont minoritaires disparaissent de la représentation sociale ?
Le principe de la démocratie.
C'est une violation du principe de démocratie.
Non, mais c'est la démocratie fondamentale.
Non, ce n'est pas la question de la démocratie que nous avons. C'est une violation du principe de démocratie. La démocratie, au point de vue du vote majoritaire, c'est sur la désignation politique, pas dans la question de la représentation sociale, pas dans l'égalité devant la loi. En démocratie, vous êtes égal devant la loi, même si vous avez voté pour un parti qui n'est pas élu, que je sache. D'accord ? Donc ça veut dire qu'admettons, ben oui, vous avez, prenons des religions minoritaires en France. Par exemple, il y a des Arméniens, il y a une église arménienne qui existe en France. On a des Arméniens ou des gens d'origine arménienne qui vivent en France. Et pourquoi on n'expliquerait pas la religion arménienne à l'école ? C'est aussi légitime que les autres. Et puis, s'il n'y a pas des Arméniens, on a des orthodoxes. On doit avoir certainement des gens d'origine grecque ou de culture d'Europe centrale orthodoxe. Et le christianisme orthodoxe, c'est quand même une chrétienté aussi importante. Et vu tous les rapports que nous avons eus avec eux, il faudra aussi l'enseigner dans le cadre de l'école. Et puis demain, les témoins de Jéhovah, les adventistes, les pentecôtistes, il y en a qui sont en France. Pourquoi n'expliquerait-on pas la religion adventiste à tous les élèves qui ne sont pas adventistes ? Donc très vite, vous allez vous trouver devant une situation où soit vous privilégiez les religions majoritaires, c'est ce qu'on appelle une prime à la majorité, et ce faisant, vous renforcez leur légitimité comme modèle de fonctionnement culturel, surtout qu'en plus, dans le cadre que j'évoque, évidemment, il n'y a pas d'enseignement du fait athée, ou du fait agnostique, ou du fait mécréant, ou du fait libre-penseur. Hein, c'est pareil, ça va de pair. Donc c'est pour ça que très vite, vous allez vous rendre compte que ça revient, de facto, pour l'État concerné, à prendre position, même si ce n'est pas une position directe, en faveur d'un certain nombre de religions, de confessions quelconques. Ce n'est pas lié au contenu de la religion, c'est la factualité qui, à ce moment-là, est mise en place. Ce qui veut dire que tout enseignement du fait religieux tel que cela est pensé dans le cadre de l'école devient une prime aux religions majoritaires. Ce qui est donc une violation du principe de laïcité, autant que du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, parce que quand vous êtes des citoyens qui ne se reconnaissent pas dans ces confessionnalités, vous êtes niés, vous êtes invisibilisés sur le plan historique, sur le plan intellectuel, sur le plan de la représentation. Vous avez même les principes de tolérance. Parce que, en général, si vous voulez, la notion aujourd'hui, nous faisons une idée positive de la notion de tolérance. D'accord ? Aujourd'hui, quand on parle d'une culture de tolérance, d'un esprit de tolérance, pour nous, ce sont des notions positives. Sauf que la tolérance, chers amis, c'est un gros mot. La tolérance, revenez dessus, pensez un peu au-delà de l'usage commun. La tolérance, c'est un gros mot. Putain de con. C'est quoi la notion de tolérance? Bon, pas besoin de revisiter les maisons de tolérance, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Qui tolère? Le plus fort. C'est quoi une liberté qu'on vous accorde par tolérance? Diable. Ça veut dire que parce que le prince est bien luné, il est magnanime, il va être tolérant. Et si demain il est mal luné? Et si demain, il décide d'être un peu moins magnanime pour des raisons quelconques? La tolérance n'est pas un droit. La tolérance, c'est celui qui est en position de pouvoir appliquer, pourquoi pas, une interdiction qui, par générosité d'âme, se peut-être touché par la grâce, je ne sais pas, l'Esprit Saint, soudainement, viendrait à arrêter son glaive. C'est pour ça que la notion de tolérance, et historiquement il faut revisiter cette notion, parce que vous verrez qu'à ce moment-là, c'est vraiment ce que je vous explique, la notion de tolérance, nous aujourd'hui on la confond avec la notion de respect. Mais en réalité, la notion de tolérance ne vient pas de la notion de respect, ce n'est pas un respect de l'autre. C'est de la magnanimité de celui qui pourrait interdire, c'est celui qui pourrait censurer, qui autorise. C'est donc l'inverse de la notion de droit. La notion de tolérance, c'est un anti-droit. Le droit, vous pouvez vous en revendiquer, parce que c'est, je veux dire, votre droit dans un cadre politique. La tolérance, vous ne pouvez pas vous en revendiquer de votre propre chef, puisque la tolérance vous est toujours accordée par une autorité. Le service des impôts, nous sommes dans la saison, pourra, par magnanimité, générosité, ça je n'y crois pas trop, mais en tout cas, avoir une certaine tolérance dans l'application des règles. Même les radars automatiques ont une certaine tolérance par rapport à la vitesse entre celle qui est affichée, celle qui a une marge d'erreur, une marge de tolérance. Donc en fait, la notion de tolérance est une notion extrêmement ambiguë. Revisiter cette sorte de couillonnade qu'on nous sort mythique de l'Andalousie du XIIIe siècle où vous aviez des juifs, des chrétiens et des musulmans. Oui, dans un esprit de tolérance. Mais ça, c'est des gens qui n'ont jamais poussé un bouquin d'histoire au-delà de la première page, là. Cette tolérance si vantée dans ce modèle extraordinaire, vous avez les citoyens de plein droit, et puis après vous avez les sous-citoyens. Vous avez des gens qui sont dans une situation de minorité sociale, avec des droits extrêmement limités et des obligations, notamment au point de vue de l'impôt, beaucoup plus. Donc c'est certainement pas à considérer comme modèle de vivre ensemble. Alors que ce soit peut-être un peu plus tolérant que ce qui se passait de l'autre côté de la frontière, où de suite on exterminait l'autre parce qu'il était autre. Oui, c'est peut-être à ce moment-là quelque chose de plus intéressant. Mais quand on l'examine, on ne peut absolument pas considérer que c'est un modèle positif. Donc c'est vrai que parfois, à côté de certaines logiques d'extermination génocidaire de l'autre, quand vous avez des gens qui simplement tolèrent en appliquant une différence tarifaire, en mettant des impôts supplémentaires sur ceux qui n'ont pas la bonne foi, ça vous paraît une sorte de, comment dire, de bouffée d'humanisme extraordinaire. C'est sûr qu'à côté du Troisième Reich, la Suisse pourrait paraître un pays profondément humaniste. Bon, quand on examine les choses un peu plus dans le détail, on se rend compte que ça ne tient pas la route. Et que, je ne dis pas que c'est mauvais ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça veut dire que la solution tolérantiste est une solution qui est une solution fondamentalement non juridique. Ce n'est pas une question d'une reconnaissance de droit, c'est à la bonne volonté du prince. Prenez les juifs du pape. Oui, ils ont été protégés par le pape, tant que le pape avait envie de les protéger en Avignon. Et le jour où, pour des raisons diverses, rapport de force interne dans l'Église, besoin de pognon pour faire d'autres guerres, évidemment, comme d'habitude, voilà, qu'est-ce qu'a fait le pape ? Eh bien, voilà, toute l'histoire des juifs en France est une histoire ponctuée de, comment dire, je t'expulse et au passage je te spoil, d'accord ? Et puis je te fais revenir, toujours parce que c'est la décision du prince, et puis un peu plus tard je te fais repartir, je te réexpulse, etc., etc. Revisiter l'histoire du judaïsme dans son fonctionnement en France, pas les croyances du judaïsme, mais comment les juifs étaient traités en France, c'était clairement un droit toléré, c'était un droit d'exception, mais surtout pour eux, c'était un non-droit. Ils n'étaient pas des sujets de droit. Et c'est ça la problématique de la tolérance. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous revendiquer parce que vous en avez le droit, qui vous est reconnu en tant que tel, c'est quelque chose que quelqu'un d'autre vous accorde. Et qui donc est parfaitement légitime, demain, à ne plus vous l'accorder. C'est l'histoire de l'édit de Nantes, dans son origine et sa disparition. 1598, c'est par un esprit de tolérance. C'est pour ça que d'ailleurs, le vrai nom de l'édit de Nantes, c'est pas l'édit de Nantes. Ça, c'est parce qu'il a été signé à Nantes, mais il n'est pas marqué édit de Nantes. Le titre, c'est édit de tolérance. Ce qui permettra à Louis XIV, en 1685, avec la même légitimité politique, de dire ben, ce que mon aïeul Henri IV avait accordé, ben moi, j'ai le droit, j'ai le pouvoir, la légitimité de ne plus l'accorder. Tandis que la notion de droit, c'est la reconnaissance de quelque chose qui est lié à l'en-soi de l'autre. Alors qu'une tolérance, c'est toujours moi qui le reconnais à l'autre. Donc c'est pour ça que la notion de tolérance, certes historiquement ça peut être une étape intermédiaire, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que, pour conclure le cours d'aujourd'hui, toutes les solutions que les pays démocratiques ont tenté pour gérer la relation avec la religion, surtout la pluralité de religions sur leur territoire, toutes les solutions qui n'étaient pas des logiques de laïcité, de laïcisation, étaient toujours des solutions incomplètes qui posaient structurellement un déni de démocratie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils le mettaient en place pour pacifier ces choses-là, ils introduisaient un traitement inégalitaire par rapport aux citoyens qui revient à une violation du principe démocratique. C'est pour ça que la laïcité ne doit pas être considérée comme un fait optionnel pour une démocratie, c'est en réalité une des exigences de la démocratie. C'est une des conditions de la démocratie. Condition d'abord dans les structures de l'État, donc tout État qui n'est pas sur une structure laïque ne peut pas être une démocratie. On ne peut pas fonder une démocratie sur l'idée d'un droit divin, sur l'idée d'une providence, sur l'idée d'un modèle. On ne peut pas fonder une démocratie dont les lois viennent d'un texte sacré. Oui. Si les lois viennent du texte sacré, peu importe comment vous l'appelez, à quoi bon avoir un parlement ? À quoi bon avoir une logique législative ? Puisque les lois, elles viennent de ce texte-là. Alors tout au plus, le parlement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre en forme légale les principes religieux dans le texte concerné. Donc, vous voyez très bien qu'à ce moment-là, tout État qui se veut démocratique, et c'est ce que connaissent comme problématique dans leur construction démocratique beaucoup de pays du côté du monde musulman, c'est que ça veut dire que pour eux, leur démocratisation, comme en Tunisie, oblige à couper les ponts avec la référence religieuse. Et c'est pas évident, parce que ce sont des pays qui ont une histoire. C'est des pays qui sont constitués d'êtres de chair et de sang, qui ont une histoire, des valeurs, des principes, des croyances, des convictions. C'est aussi difficile que nous, ça l'a été dans notre propre histoire. Le renoncement à appuyer notre droit sur le droit divin, ou sur le droit provenant de la Bible ou des théologiens, pour nous, ça nous a demandé des siècles. Ce qui explique, si vous voulez, que ce ne sont pas forcément des choses faciles, mais c'est une sorte vraiment d'exigence, ce qui fait que toute progression en laïcité, pour un État, en fait, revient toujours à un progrès en démocratie. Ça ne veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'un État progresse en laïcisation, c'est de facto un progrès soit direct, soit indirect pour la démocratie. C'est-à-dire soit ça va favoriser la démocratie, soit ça va permettre d'introduire un principe d'égalité, de traitement égaux en fonction de, enfin, pour les citoyens, indépendamment des questions religieuses. C'est pour ça que la laïcité doit être comprise comme étant une exigence démocratique, parce que sinon, s'il n'y a pas de laïcité, vous avez violation de deux notions qui sont, si vous voulez, fondamentales. C'est la violation du principe d'isonomie. Alors le terme isonomie, c'est un mot un peu barbare, mais ça veut dire en politique, iso, c'est comme les isocèles, hein, les triangles isocèles, c'est-à-dire... Alors là, ce n'est pas les côtés égaux, c'est égaux dans le rapport à la loi. Que vous puissiez, par exemple, accéder à toutes les fonctions publiques indépendamment d'une question de conviction religieuse. Imaginez une démocratie, ou un pays avec un fonctionnement vers la démocratie, mais où seules les places de fonctionnaires seraient réservées à tel membre en termes de confession et de religion. On a connu ça dans l'histoire des pays. L'Angleterre, par exemple, hein, un pays qui était d'ailleurs très tolérant religieusement. Néanmoins, alors oui, en Angleterre, au XVIIIe siècle, il n'y a pas d'inquisition, vous pouvez penser à peu près ce que vous voulez, vous êtes juif, les juifs ont été réautorisés à venir en Angleterre depuis Cromwell, il y a une sorte de liberté de conscience, ça s'appuie sur la révolution de 1688, la glorieuse révolution, les principes politiques de John Locke est un des fondateurs de la laïcité, sauf que l'État anglais impose que tous les fonctionnaires soient anglicans. Donc les autres, ils peuvent travailler et vivre dans le royaume, mais ils ne peuvent pas accéder aux carrières publiques. Ils ne peuvent pas être militaires. Ils ne peuvent pas accéder à des fonctions publiques. Ils ne peuvent pas être juges. Donc ils peuvent être jugés par, mais ils ne peuvent pas être juges dans ce cadre-là. Au passage, vous pouvez revisiter l'histoire du conflit anglo-irlandais. Vous verrez qu'il y a aussi énormément de considérations religieuses qui interviennent dedans. Donc ce qui fait qu'une démocratie n'a pas beaucoup d'autres solutions si elle veut rester fidèle au principe, en tout cas un des principes de la démocratie, c'est-à-dire celle de l'égalité, d'aller vers la laïcité. Et ensuite, la deuxième notion qui est violée, si on a d'autres types de solutions mis en avant pour gérer les problématiques de la religion, c'est ce qu'on appelle une violation de l'universalité démocratique. C'est en quelque sorte le recto et le verso de la violation de l'isonomie. C'est-à-dire, si vous violez l'isonomie, en cascade, vous allez remettre en cause le principe de l'universalité de la démocratie. Donc, par exemple, comme je le disais, vous ne pourrez pas, si vous n'appartenez pas à telle confession, ou si vous appartenez à telle confession, par exemple, vous ne pourrez pas accéder à des fonctions publiques ou à des représentations dans les structures de l'État. C'est pour ça qu'un État, au point de vue des conséquences politiques, une démocratie, si elle n'est pas neutre religieusement, vous pouvez considérer qu'elle est insuffisamment... Je ne dis pas qu'elle n'est pas une démocratie, je dis qu'elle est insuffisamment démocratique. Parce que la démocratie ne s'obtient pas un claquement de doigts, c'est un processus de construction historique, il y a toute une série d'éléments qui se mettent en place progressivement. Laïcisation de la pensée, ce dont je ne vous ai pas parlé, laïcisation du fait social, ce qu'on appelle la sécularisation. Et la laïcité politique que nous connaissons, ce n'est que le quatrième niveau dans l'histoire de la construction de la laïcité. Et on a des mécanismes similaires au point de vue de la démocratie. La démocratie se construit par plusieurs types d'étapes historiques, ce qui fait que jamais une démocratie, à un moment donné, n'atteint le modèle parfait. Elle est toujours en route dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, soit elle est en route vers un progrès, vers une démocratisation, soit elle est en phase d'immobilité, ça peut arriver, soit en phase de régression. Cocher la case pour notre présent. Mais bon, c'est notre histoire. Donc c'est pour ça que la solution autre que la laïcité, pour une démocratie, revient toujours à être une solution bancale, incomplète, et qui pose des problèmes démocratiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure au point de vue de l'enseignement de l'école, si moi je ne me reconnais d'aucune confessionnalité, pourquoi on n'aurait pas le droit d'expliquer aux autres, pour être dans le vivre ensemble, qu'on peut être athée et qu'on n'a pas forcément besoin de la religion pour vivre, pour être heureux, pour respecter les lois. On n'a pas besoin de la religion, du curé, du pasteur, du rabbin, de l'imam ou tout ce que vous voulez, pour respecter son voisin, pour aimer et être solidaire ou, comment dire, dans l'entraide avec les autres. C'est pour ça que quand un pays, si vous voulez, progresse dans l'établissement de la démocratie, normalement, ça favorise la possibilité de mettre en place la laïcité, mais ce n'est pas automatique, parce qu'ensuite, il faut que l'État démocratique lui, ensuite, aille vers la laïcisation de sa politique et de son fonctionnement. Et c'est comme ça que vous avez une sorte de cercle vertueux qui existe entre démocratie et laïcité. À chaque fois qu'on a un progrès en laïcité, en fait, on renforce aussi quoi ? Le fonctionnement démocratique de la société concernée.
Et vice-versa.
Tout à fait. C'est pour ça que ces deux notions, c'est pas simplement qu'elles ont une origine commune ou qu'elles sont associées, c'est que l'un doit être pensé, notamment la laïcité, comme une des conditions de la démocratie. En tout cas, d'une démocratie qu'on... d'une démocratie, si je puis dire, plus avancée en démocratie. C'est-à-dire, dans les premiers temps, en démocratie, c'est pas ça qu'on va mettre, la laïcité, en avant. Mais si on veut améliorer la démocratie, tout comme il va falloir du temps pour appliquer le suffrage universel, en fait, demi-universel aux femmes, eh bien, dans l'histoire d'une démocratie, on va passer d'un stade non laïque, point de vue de la politique de l'État, même s'il est laïque, à un stade qui sera laïque. C'est pour ça, par exemple, qu'aux États-Unis, sur beaucoup de points, ils sont plus laïques que la France. L'État américain ne subventionne aucune église. En France, je vous rappelle que l'État français, nos deniers, finance l'immense majorité, pas toutes, mais l'immense majorité des églises et bâtiments religieux de l'Église catholique. Vous pouvez vous crier scandale à la laïcité quand vous avez un président américain qui, on va dire, évoque Dieu dans son discours, mais eux, au moins, ils financent pas. Alors ça s'explique par leur histoire. Et en fait, quand vous voyez les présidents américains prêter serment sur la Bible, c'est une régression par rapport au fondement des États-Unis. Ce n'est pas un principe originel. Les petits gamins aux États-Unis qui, à l'école, font la prière sur le drapeau, ça n'existe pas lors de la Constitution des États-Unis. C'est une des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a beaucoup de phénomènes aux États-Unis que nous associons dans, on va dire, leur religiosité, qui ne sont pas forcément des données, qui sont constitutives des pères fondateurs. En fait, on a eu beaucoup plus, permettez-moi l'expression, de cubénie au XXe siècle du côté d'un certain nombre d'autorités politiques américaines ou d'un politique américain que, par exemple, les pères fondateurs, si on prend les Jefferson, les Washington, ou comment dire, Madison, pour les hommes politiques qui vont fonder la Constitution américaine. Il y a, si vous voulez, eu au XIXe siècle aux États-Unis une sorte de revival, j'en prends le terme à dessein, religieux, qui va redonner sur la société civile, sur les esprits, une prégnance beaucoup plus forte à la religion qu'elle n'en avait au début de la Constitution des États-Unis. Preuve aussi l'un est que l'histoire ne se fait pas toujours dans un seul sens, elle peut aussi se faire dans l'autre sens. Voilà, donc retenez pour la conclusion que la laïcité... dans un État qui se veut démocratique, comme j'ai dit, un État qui ne se veut pas démocratique, c'est bon, c'est même pas la peine d'en parler, mais la laïcité est le seul moyen de pleinement garantir, dans le rapport aux questions religieuses, un principe démocratique. Sinon, toutes les autres solutions, vous verrez, sont des solutions soit incomplètes, qui peuvent marcher d'un côté, mais qui, de l'autre côté, réintroduiront des violations de principes démocratiques par ailleurs. Et ce que je dis là, ce n'est pas par rapport à l'histoire de France, on le voit, on peut l'observer dans tous les pays qui vont, en tant que démocratie, à l'échelle européenne, par exemple du côté de l'Allemagne, du côté de l'Italie, du côté, parce que l'Italie est concordataire, hein, par exemple, hein, au point de vue de son fonctionnement. L'Italie n'est pas un pays laïque, elle est un pays concordataire. La majorité des pays européens sont plutôt à tendance concordataire. Voilà. En raison de certains dispositifs européens, il ne peut plus y avoir d'État confessionnel aujourd'hui, hein, au niveau de l'Union européenne, mais on a essentiellement ensuite des logiques concordataires qui font que l'Église historique du pays bénéficie de cette prime historique, de cette rente historique et de sa place dans la société. Par exemple, on lui délègue des missions publiques, ce qui n'est plus le cas chez nous en France. Parce que dans la laïcité, vous n'avez pas simplement le non-financement, il faut ensuite que les religions ne soient pas investies de missions de service public. Parce que vous pouvez avoir une église qui est séparée, mais on peut lui attribuer, par exemple, dans un cadre socio-éducatif, dans le cadre de ceci ou cela, comme dans beaucoup de pays, on peut lui affecter des missions où elle remplit des fonctions sociales.
Il y a en France un enseignement religieux.
Alors, ce sont des écoles confessionnelles. ces écoles confessionnelles, il faut bien l'entendre comme étant des violations de la laïcité. Principalement du fait de l'opposition et de la difficulté au point de vue des forces politiques à mettre en place, rappelez-vous, enfin de mettre en place éventuellement la laïcité historiquement, parce que ça date de 1850, hein, les débats pour la loi Falloux, c'est janvier 1850, je pourrais vous citer un célèbre texte de Victor Hugo qui dit « Ah, le parti clérical, il a des états de service, on le connaît bien, mais en réalité, la problématique va se rejouer en 1905, elle va se rejouer... En fait, elle va se rejouer même lorsque, c'était à l'époque de Mitterrand, il va y avoir la volonté de remettre en cause cela, et vous avez, je ne sais plus combien, vous avez plus d'un million de personnes dans une manifestation à Paris. Je n'ai plus à l'esprit, à cette heure-ci, la date où c'est intervenu. C'est là où on a vu la capacité de mobilisation de cette France-là. C'est pour ça que là, ce dont nous parlons, c'est des idées dans la salle, mais dans les faits, c'est des rapports de force politiques, sociaux, économiques, entre partis de la France. Et donc capables de s'organiser, revisiter les problématiques autour du mariage, si je puis dire, rien que pour eux. Hein. Voilà, puisqu'en fait, c'était principalement ça, la nature du problème. Voilà. Déjà, la question du Pax, à l'époque, dans les années 90, en 97, vous voyez ce que ça avait fait, le Pax. Donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer ce qui est le débat d'idées. Ensuite, derrière, c'est des rapports de force sociaux qui arment ces idées avec des mobilisations. Bon, on n'a pas pris les armes parce qu'on est dans un pays qui n'est pas arrivé à ce stade-là, mais historiquement, il fut des temps où ça a pris les armes. Pour refuser, par exemple, des logiques de laïcité, alors pas en France, mais dans d'autres pays. Par exemple au Mexique, ce qu'on appelle la crise des Cristeros, qui se constitue en maquis armé contre les mesures, la laïcita, hein, version mexicaine, voilà, parce que ça remettait en cause pour eux un modèle politique où, évidemment, la religion doit être au centre du fait social. C'est pour ça que toutes les religions qui ont un problème avec la laïcité, elles ont ce problème-là parce que, dans leur modèle théologique, leur place doit être la place centrale et structurante, ordonnatrice du fait social. Ce n'est pas la question de tel ou tel personnage religieux, c'est une question au point de vue des idées. C'est le logiciel, si vous voulez, des croyances et des convictions qui est en cause. Alors ensuite, vous avez des ecclésiastiques qui seront intelligents, qui les mettront de côté. Ils ne se bloqueront pas dessus. Et puis il y en a qui se bloqueront dessus. Et ça veut dire qu'au point de vue, si vous prenez l'Église catholique aujourd'hui, l'Église catholique, elle a accepté le jeu de la laïcité. Mais elle a accepté ce jeu de la laïcité de manière... plus qu'à contre-cœur, et surtout, elle a accepté parce qu'on lui a imposé, et que l'Église sait qu'elle a le temps pour elle. L'Église catholique, mais on peut le dire pour les autres, ils savent qu'ils ont le temps pour eux. L'Église, elle a 2000 ans d'histoire, alors des régimes politiques, elle en a vu apparaître, elle en a vu disparaître. Donc l'Église a accepté le fonctionnement dans la laïcité, et ça c'est dans les années 1900, comment dire, à la fin des années 20, hein, 1930, c'est ce qui casse d'ailleurs les mouvements de l'extrême droite monarchiste et royaliste en France. Mais au point de vue des idées fondamentales, théologiquement, elles sont toujours là. Donc je vous mets en garde contre la tentation de dire, ben voilà, regardez l'Église d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne voit pas en quoi il pose une menace sur le vivre ensemble, au point de vue de ces questions-là sur le champ social. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont renoncer à leurs croyances et à leurs convictions. C'est parce qu'on leur impose socialement une muselière qu'ils ne peuvent plus mordre. Si on enlève la muselière, comme en Irlande, comme en Pologne, ou comme d'autres pays de même situation avec la même religion, ils reviennent à leur naturel sur des questions qui, pour eux, sont des questions de dogmes fondamentaux en termes de croyances et de convictions. Donc c'est pour ça qu'il est aujourd'hui assez facile de dire « Oui, mais l'Église d'aujourd'hui, elle a évolué. » Non, elle n'a pas évolué. Les croyants d'aujourd'hui ne sont peut-être pas les mêmes qu'au début du siècle, mais les postulats théologiques sont toujours les mêmes. Et si on enlevait les structures sociales qui aujourd'hui garantissent la liberté de penser, la liberté de conscience, garantissent tout ce que la laïcité apporte, eh bien on reverrait apparaître les mêmes problématiques qu'on a connues dans le passé. Donc ne confondez pas ce qui est une sorte de... on va dire, d'intermède pour l'Église, parce qu'elle le vit comme telle, ou elle accepte cela parce qu'elle ne peut pas faire autrement, sinon elle est éliminée, avec le fait qu'elle aurait accepté le fondement de la laïcité.
Est-ce qu'il ne faudrait pas, à ce moment-là, demander à l'Église, dans certaines religions, d'expurger les textes, leurs textes fondateurs?
Elles ne peuvent pas le faire.
Des éléments. Donc, à ce moment-là, est-ce que finalement, être placé des églises ou des religions comme des textes fondateurs qui sont non démocratiques, est-ce que ce n'est pas, par la laïcité, placer un système qui crée un déséquilibre de la démocratie? C'est-à-dire que...
Alors, c'est en sens inverse qu'il faut le penser. C'est l'établissement de la laïcité qui permet de l'endiguer, qui permet... de le cadrer.
Le texte ne change pas.
Oui, mais attendez, le texte, ça ne regarde, le texte ne regarde pas l'État. Le texte regarde les croyants.
Tant que il n'est pas dit dans un lieu public. À un moment donné, si ce texte sert...
Non, mais ce n'est pas une question de lieu public, c'est la question de l'adhésion aux croyances de la part des gens.
Non, un État... Ce n'est pas illégal.
C'est pas une question... Mais non, monsieur, vous ne pouvez pas poser comme légal ou illégal une religion. Oui. Sinon, ce que vous refaites, vous redevenez juge et partie en matière de vrai sur le plan religieux.
J'entends bien, vous avez bien raison, mais il ne s'agit pas de la croyance. Si dans un texte, par exemple, il y a l'apologie de la femme esclave, ou la...
Oui, mais vous ne pouvez pas politiquement l'interdire...
Du non-croyant.
Vous ne pouvez pas l'interdire.
Il est de fait illégal.
Il est interdit.
Il est de faire l'apologie du crime.
Oui, mais n'opposez pas. Comprenez bien la nature de la laïcité. La nature de la laïcité, c'est pour ça que la laïcité ne se pose pas la question de à quoi croient les religions.
Mais une nouvelle religion arriverait avec ces textes, elle serait immédiatement. On demanderait à ce qu'elle soit supprimée.
Non, vous ne pouvez pas, en tant qu'autorité politique quelconque, quel que soit votre pouvoir, à moins de tuer les gens, vous ne pouvez pas les contraindre à croire à quelque chose que vous voulez qu'ils croient, et vous ne pouvez pas les contraindre à ne pas croire à ce qu'ils croient.
On parle de placer un texte.
Oui, mais c'est bien ça. Vous ne pouvez pas, en tant
qu'apologie du crime.
C'est bien ce que je vous répète. Vous ne pouvez pas, en tant que structure politique, décréter ce texte-là est illégal.
Si, la justice peut.
Oui, mais vous verrez le résultat, monsieur. Dans le style des conneries, on a déjà fait. C'est toute l'histoire de l'Église catholique dans la détention du pouvoir. Ils ont passé leur temps à interdire les textes des autres convictions. Moralité, vous réintroduisez la guerre de religion. Et vous faites, au nom de la laïcité, exactement la même chose que faisaient les religions. Donc, au nom de ce que pour vous, vous pensez être problématique et qui est bien problématique, vous revenez à adopter le même principe qui est, en tant qu'autorité politique, vous faire juger partie des croyances et des convictions. La laïcité, c'est la dissociation totale de la relation entre les États, les structures politiques, et les croyances et les convictions. Donc les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Vous pouvez ensuite interdire le meurtre. Ça, vous pouvez. Mais vous ne pouvez pas interdire ni les croyances ni les convictions qui, dans un groupe religieux, le structurera comme tel. Vous pouvez essayer toute l'histoire.
Il ne s'agit pas de rentrer dans l'esprit des gens. C'est un texte qui fait l'apologie du crime.
Vous allez l'interdire légalement, ce texte-là. Eh bien, il passera pas sous le manteau.
Non, mais là, oui, mais bien sûr. La question n'est pas de l'interdire. C'est pas, la question n'est pas de l'interdire, la question est de le déclarer illégal. C'est-à-dire qu'en ne regardant pas, finalement.
Comment vous faites alors si vous interdisez le texte et que vous le déclarez illégal, attendez, moi je vous parle en termes de droit.
Vous faites interdit, mais la question c'est à un moment donné, si vous voulez, d'un côté on a une démocratie qui est une société qui avance, dans laquelle les idées avancent. Vous l'avez très bien dit quand vous avez parlé du mariage pour tous, ou du débat, ou du vote pour les femmes, etc. Et de l'autre côté on a des religions qui, elles, sont cristallisées sur des textes fondateurs qui ont plusieurs milliers d'années. Donc, il est bien évident qu'à un moment donné, un certain nombre d'éléments de ces textes fondateurs deviennent d'abord politiquement incorrects. Donc, comme vous l'avez très bien dit, l'Église catholique...
La religion est politiquement incorrecte. C'est la définition même de la religion. Elle est politiquement incorrecte.
Oui, non, mais on ne parle pas de religion, on parle de textes fondateurs.
Et si vous parlez de
textes fondateurs... Non, le texte fondateur est un texte. Le texte fondateur est un texte.
Et les textes religieux?
Ils pourraient ne pas l'être.
Bah, ils sont religieux, donc c'est la religion.
Ils sont religieux. Ils pourraient ne pas l'être.
Vous comprenez pas.
Le texte qui a permis à L'arrestation et le meurtre de Hypatie est un texte qui est toujours, et qui est un texte qui dit que la femme doit rester à sa place et rester sous la contrainte de l'homme, et est un texte.
Le code Napoléon aussi le disait.
Oui, mais il a été revu.
Il
a été revu. Aujourd'hui, ce texte, c'est pas assez, on a raison.
Là, vous êtes en train de vous enliser dans une problématique qui, en fait, au point de vue de la laïcité, extrêmement simple dans le fonctionnement pour la laïcité. La laïcité ne se mêle pas de ce qui est vrai ou faux ou légitime d'un point de vue religieux. Elle dit qu'il y a une séparation totale, il y a une loi civile émanant des hommes qui est valable pour tous, et ensuite elle ne tient pas compte de ces questions-là. Et donc elle va interdire le meurtre parce qu'elle interdit le meurtre. Après, que dans des croyances ou des convictions religieuses même, il y aurait ce genre de choses, la laïcité ne va pas intervenir au niveau de la croyance et de la conviction religieuse. C'est pour ça que la laïcité, elle n'a pas plus que n'importe quelle église le pouvoir de faire changer les croyances et les convictions d'autrui. La laïcité permet de pacifier l'espace social et l'espace politique entre les religions, qui sont les principales, on va dire, forces qui s'affrontent pour le contrôle du champ social. La laïcité n'a pas été faite pour protéger les mécréants, les agnostiques et les athées. La laïcité, elle a été faite pour mettre un terme aux guerres de religion qui intervenaient dans les pays en raison des conflits venant des différentes religions. Donc la laïcité, dans ce sens-là, ne demande pas à ce qu'une religion soit progressiste et évoluée au point de vue de ses croyances et ses dogmes, puisque justement, elle n'en tient pas compte. C'est pour ça que la laïcité, elle met dans ce sens-là une muselière à toutes les formes de croyances de cet ordre-là, en disant non, au point de vue de vos croyances, vous pouvez considérer que ceci est un blasphème, mais la loi ne reconnaît pas la notion de blasphème. Vous pouvez, à titre personnel, considérer que l'ail rose de Garonne est sacré, l'État, la nation, ne le reconnaît pas. Vous pouvez, à titre personnel, croire cela, la laïcité ne va pas se mêler de ces questions-là. Elle va dire, sur le plan social, sur le plan des autorités et des structures de l'État, ce qu'on appelle improprement l'espace public. Ça, c'est le piège à con classique. Quand on parle de l'espace public dans la laïcité, c'est pas l'espace public de la rue. L'espace public de la laïcité, il faudrait rappeler ça chaque fois, c'est les structures organiques de l'État. Administration, école, police, armée, tribunaux et toute autre structure administrative. La rue, vous pouvez prier dans la rue, ce n'est pas une atteinte à la laïcité. Tout au plus, ça peut être une atteinte à la liberté de circulation si vous bloquez la rue, mais prier dans la rue n'est pas une atteinte à la laïcité. Quand on parle de l'espace public, c'est l'espace des structures de la res publica, et donc ça ne désigne pas l'espace public. L'espace public dans un État laïque, vous pouvez afficher vos croyances ou vos convictions, c'est quand vous rentrez, alors que vous êtes fonctionnaire de l'État au bureau, que vous mettez votre kippa, votre croix, votre bouddha, votre machin truc muche, ou votre, nos religions, ni Dieu ni maître, vous le mettez dans votre poche et vous assumez votre fonction d'un point de vue neutre dans le rapport aux autres, aux usagers, voilà. Donc c'est pour ça que la notion d'espace public en laïcité, c'est pas l'espace en dehors du privé, c'est les structures organiques de l'État. Le fait que vous soyez arrêté, par exemple, pour un contrôle de vitesse par un policier qui ne se balade pas avec une croix de 20 cm autour du cou, entre le képi et, si je puis dire, le flingue. C'est le fait de pouvoir être jugé par un juge qui n'affiche pas, on peut les avoir par ailleurs, mais en tout cas qui n'affiche pas ostensiblement ses croyances et ses convictions. C'est ça la notion quand on parle de l'espace public pour la laïcité, c'est celui-là. C'est pour ça que porter le voile dans la rue, c'est pas un problème pour la laïcité. C'est quand vous êtes fonctionnaire d'une administration quelconque, territoriale, tout ce que vous voulez, bibliothécaire dans une médiathèque, et que vous le portez. C'est là le problème à la laïcité. Là, c'est une laïcité, c'est une atteinte à la laïcité. À la limite, vous pouvez même porter le niqab dans l'espace public. S'il est interdit, ce n'est pas pour des raisons de la laïcité. La laïcité n'est pas en jeu dans l'interdiction du niqab ou ce genre de vêtements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'interdire. Je dis que si on l'interdit, ce n'est pas à cause de la laïcité. La laïcité n'y est strictement pour rien. De même, quand vous avez une régie publicitaire à Paris qui ne veut pas mettre chrétien d'Orient sur une affiche, elle dit que c'est pour la laïcité. La laïcité n'a rien à dire là-dessus. C'est une activité publique. Pas publique, c'est une activité privée. C'est la publicité. S'ils n'ont pas voulu le mettre, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir des emmerdes avec des sauvageons de banlieue qui vont leur taguer ou leur détruire les trucs. Et sauf que ça, c'est l'explication non officielle qu'on n'osera pas dire Voilà, et on se cachera derrière la laïcité. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, vous pouvez mettre concert au bénéfice des chrétiens d'Orient, ce n'est nullement une violation de la laïcité. Concert en faveur des musulmans de, je sais pas, de Bosnie-Herzégovine à l'époque de la... C'est pas une atteinte à la laïcité. Voilà. Ça n'a rien à voir, ça relève de la vie privée, de la société civile, où vous pouvez avoir des croyants qui existent, comme il y a des amateurs de foot qui existent, qui font des clubs, qui vous avez des affiches ce soir, rencontre du PSG contre je sais pas trop quoi, ben vous pouvez avoir des rencontres religieuses, sa sainteté, machin truc, Muge 23, invite, ça c'est pas une atteinte à la laïcité. Voilà, la laïcité ce serait si le président de la République, en représentation officielle, se rendrait à cette cérémonie.
Merci pour ces clarifications sur la laïcité, justement. Et comme je vois que les questions ont déjà commencé, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Moi, je voudrais vous demander que penser d'un État qui, bien que laïque, tolère, accepte encore de tolérer un principe concordataire dans une région de l'Est, par exemple.
Je l'ai déjà dit. C'est une violation de la laïcité, et c'est donc un État insuffisamment laïque et un État insuffisamment démocratique. Pourquoi en Alsace, quand vous êtes catholique, protestant, je crois qu'il y en a quatre, voilà, et ou judaïque, pourquoi votre culte serait subventionné et pourquoi pas les autres cultes? Je vois pas pourquoi, admettons Mathieu Richard, qui s'installerait... Oui, c'est Mathieu Richard, Ricard, voilà. S'installe en Alsace, il a une maison en Alsace, et pourquoi pas, on financerait à ce moment-là, je ne sais pas comment, comment dire, son petit temple bouddhiste. Il y a des temples, il y a des dojos zen à Toulouse qui ne demandent pas de financement public, que je sache. J'attire votre attention qu'il y a des tas de religions qui en France existent, c'est-à-dire de groupes religieux qui existent et qui demandent ni de subventions, ni de soutien public. Est-ce que nous, je vais reprendre cet exemple, vous allez comprendre, en tant qu'athées et mécréants, qui représentons entre 10 et 20% de la population, demandons à ce qu'on nous construise 2000 temples de la raison? Non mais attendez, une autorité musulmane en France qui se dit représentante d'un islam, pas les enturbanés du fin fond de Daesh, mais un islam, qui s'amuse à dire, avec une sorte d'aplomb, mais moi je pense... toute sincérité, conviction. Et personne n'a moufté au point de vue des autorités politiques. C'est-à-dire que là, notre Premier ministre actuel ou des représentants de l'État auraient dû dire « Attendez, on n'est pas en Arabie Saoudite ou on n'est pas au Maroc où c'est l'État qui finance les mosquées. Moi, j'ai aucun problème à ce que des musulmans construisent leurs mosquées. C'est pas ça le problème. Mais demander, il nous faut à l'État français 2000, 1001, c'est pas la question de la quantité, c'est sur le principe, il fonctionne comme au Maroc. Il fonctionne comme dans les pays historiques de l'islam, où c'était le prince qui finançait ces questions-là, qui prenait en charge ces questions-là, puisque dans l'islam, il y a un état d'indistinction. Donc c'est quand même assez énervant qu'un des principaux représentants dits de l'islam en France, comment dire, prenne une position que personne n'a soulevée, où en fait, il dit quelque chose qui est certainement une des plus grandes violations, si c'était fait, de la laïcité en France. Moi, je comprends parfaitement que les musulmans peuvent avoir des problèmes en tant que lieu de culte. Mais il y a des tas de groupes religieux qui ont le même problème et ils ne demandent pas de l'argent et des subventions publiques et un financement public de ces questions-là. Les témoins de Jéhovah, ils ouvrent chaque semaine en France de nouvelles salles du royaume. Ils ne demandent pas de subventions. Ils se démerdent. Donc, excusez-moi de le dire crûment. Donc aussi, il faudra que l'islam fasse... En tout cas en France, en Arabie Saoudite, c'est une autre histoire, mais il faut aussi les mettre devant leurs responsabilités. L'histoire de l'islam, au point de vue des idées, c'est une religion qui s'est construite, dans ces rapports-là, avec un principe de dépendance pour la construction de tous leurs bâtiments religieux, donc de l'activité religieuse par rapport aux autorités temporelles, parce que dans l'islam, il n'y a pas de distinction entre les deux. Donc, ils ont intégré par une histoire de plus d'un millénaire un fonctionnement où, avant de se demander, moi en tant que fidèle, je vais payer ma dîme pour construire ma mosquée, on se tourne vers le prince, on se tourne vers l'autorité détentrice donc de ceci ou cela, et c'est pas parce que les musulmans en France sont pauvres. C'est un problème de culture quant au financement, le rapport de l'argent et au financement dans son propre culte. Ne croyez pas que si les musulmans en France ont du mal à se financer la construction de leur mosquée, c'est parce que les musulmans en France sont tous pauvres. C'est une culture, c'est pas un précepte coranique, c'est une culture d'usage dans la culture musulmane où à ce niveau-là, excusez-moi de le dire, c'est un peu provocateur, faut l'entendre comme ça, ils ont des oursins dans la tchaba. Quand il s'agit de cracher au pot pour construire leur salle de prière, c'est eux qui ont du problème avec. Donc, il faudrait arrêter, dans ce fonctionnement-là, qu'ils nous renvoient leurs problèmes dans leur financement, pas dans la pratique, mais au point de vue de la mentalité, comme si c'était un devoir de l'État français. L'État français, la France en tant que pays laïque, ou alors c'est plus un pays laïque. À ce moment-là, il faut l'assumer, elle n'a pas pour fonction de payer, l'entretien ou la construction de cultes. Et s'il y a des violations d'un côté, il y a deux possibilités. Soit on légalise la violation et on l'applique pour tous, et là je demanderai que l'État français paye les mosquées pour être cohérent et respecter tous les citoyens français d'un même point de vue, ou alors il faut arrêter le financement de ceux qui sont financés. C'est-à-dire que soit on légalise la violation en le généralisant à tout, et à ce moment-là ce n'est plus discriminatoire, ou bien il faut arrêter de le faire pour les églises catholiques. La dimension patrimoniale, on peut parfaitement la distinguer entre ce qui sont des bâtiments, mais ça posera un autre type de problème. À quel moment une église devient patrimoniale? Est-ce qu'elle a un intérêt architectural, artistique, ou simplement, pour vous, c'est votre patrimoine culturel, parce que c'est l'église de votre village, ou vous êtes, c'est le vôtre?
Mais c'est l'usage. L'usage, il est même pas fini, hein.
Donc c'est pour ça qu'à un certain niveau, aussi, ça voudra dire que si on ne finançait plus ces églises, la plupart tomberaient en ruine. Voilà. Les grandes cathédrales, on les a dans les monuments historiques, mais ça représente combien d'édifices religieux? Je suis le premier à faire une distinction entre un bâtiment qui a une valeur architecturale, artistique, historique telle qu'il devient un bâtiment du patrimoine commun. C'est pas parce que je suis athée mécréant que je veux qu'on n'entretienne plus l'acropole d'Athènes, qui est un temple comme les autres, à ce niveau-là. D'accord? Donc ne confondez pas les deux. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, en France, eh ben, il faudra accepter que toute une série de bâtiments d'églises qui n'ont aucune dimension artistique, qui n'ont aucune dimension autre, eh bien voilà. Et c'est là que vous allez voir les résistances que cela impliquerait au point de vue de l'immense majorité des Français. C'est pour ça qu'une des grandes parties du non-avancement sur la laïcité aujourd'hui en France, en dehors de la timidité des hommes politiques, de la frilosité des hommes politiques, pour éviter d'avoir des conflits, hein, pour éviter d'avoir des conflits, pour avoir la paix sur ces questions-là, fait que, dans l'état actuel, c'est simple, il n'y a plus de progrès en laïcité depuis la loi 1905. Si ce n'est peut-être quand on a réaffirmé la question dans le rapport aux voix. Sinon, on est dans une pente descendante quant au respect de la laïcité. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, on peut faire une liste facile de tout ce qui pourrait être fait pour, et ça coûterait que dalle au point de vue du budget de l'État, qui seraient des mesures de laïcisation, d'amélioration de laïcité. Et si on améliorait ce fonctionnement de la laïcité française, c'est-à-dire, il faut l'améliorer. Il ne faut pas supprimer la laïcité, parce que si vous supprimez la laïcité, qu'est-ce que vous allez mettre à la place?
Il n'y a plus de démocratie.
Si vous enlevez... Non, on peut avoir la démocratie encore, mais très peu démocratique sur beaucoup de points. Si vous enlevez la laïcité, au nom des problèmes qu'elle a, au sens, finalement, non pas des problèmes de la laïcité, mais du fait qu'elle n'est pas suffisamment mise en pratique, vous comprenez? Toutes les objections qu'on fait à la laïcité, ce n'est pas des problèmes en soi de la laïcité, c'est du fait que ce n'est pas suffisamment appliqué. Vous avez parlé de l'Alsace, monsieur, comme référence. Vous avez parlé des écoles. Mais ça, ce n'est pas un problème de la laïcité. C'est le fait que, justement, pour des raisons de rapport de force politique, on n'a pas voulu appliquer la laïcité.
Il y a une question là-bas. Même deux.
Il y a quelque chose qui concerne souvent la laïcité, c'est quand il y a des moments de tragédie, pour résumer, où il y a des manifestations ou des hommages œcuméniques. Moi, ça me choque beaucoup parce que ce sont des personnes qui représentent l'État ou les collectivités et il y a des messes. Alors, pour paraître laïque, on appelle ça écuménique, mais en fait, comme vous dites, les athées ne sont pas représentés. Et moi, je suis très choquée de voir le président de la République qui va à la synagogue, là, en tant que représentant de l'État. Voilà. Alors,
il faut bien distinguer deux choses. Que le président de la République française ou une autorité de la République, dans des situations de personnes qui sont, c'est pas monsieur un tel comme ça, c'est des personnes qui sont victimes, qu'elle est d'une confessionnalité quelconque, elle est enterrée dans sa communauté religieuse, voilà, que en tant que représentant de la nation, il se rend de là, ce n'est pas une violation de la laïcité. Le problème que l'on aura, c'est quand l'hommage national est rendu à Notre-Dame.
Même à Toulouse, à ZDF, ils ont été à la cathédrale.
Donc, il y a des dispositifs, hein, dans le cadre du fonctionnement de la laïcité de l'État en France, qui permet de rendre des hommages, entre guillemets, nationaux, sans passer par la case de l'Église. Comme je dis, ce qui est différent du fait qu'un représentant de l'État se rende aux obsèques d'une personne croyante par ailleurs qui a été victime de... Il ne faut pas se tromper dans la problématique. Hein, il ne faut pas, dans la manière de concevoir la laïcité, il ne faut pas, se, dans certains cas, tomber dans des lectures un petit peu superficielles et caricaturales. En laïcité, les religions ont droit de citer. Sauf qu'elles ont droit de citer comme activité privée. Elles sont mises sur le même plan dans le rapport à l'existence sociale que le club d'échecs d'à côté ou le club des boulistes.
Donc ça peut pas être mal. Gilles, tu as une question.
Je ne sais pas si je me trompe, je dirais si je fais de l'erreur.
Tu peux parler plus fort ?
J'ai du mal à parler plus fort. Bah.
Il y aura un micro.
Il y en a qu'un.
Merci. Je disais, je ne sais pas si je me trompe, si je suis dans l'erreur, mais est-ce que la laïcité doit être limitée au courant religieux ? Si je pose cette question, c'est que pour que l'ensemble des courants de croyance soient respectés, il faudrait effectivement, peut-être, on pourrait les apprendre, les faire comprendre autant. L'athéisme, l'agnosticisme, les différents courants religieux, essayer de voir ce qu'est la croyance. Si on va dans ce sens, en croyance, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire aussi d'accepter toutes les croyances, même de type politique ? À ce moment-là, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'interdire toutes les interdictions dans ce domaine-là ? C'est-à-dire accepter les dires sur tous les courants de croyance. Même, par exemple, ce qui actuellement est sanctionné, les dénégations, les paroles de ce type, en ayant au préalable peut-être fait une formation de façon à ce que la plupart des gens aient un esprit critique suffisant pour comprendre, pour juger et pour accepter ce qui est acceptable.
Votre question, monsieur, c'est une question très vaste, il y a plein de sous-tiroirs. Je répondrai modestement. Ce que vous expliquez sur certains points, notamment à l'école, virons les idéologies de l'école, les partis politiques, ou l'idéologie business de l'école, on pourrait effectivement avoir des extensions de la notion de laïcité. Mais le mot laïcité se construit et s'entend. La laïcité ne s'occupe pas de tous les problèmes de la société. Elle s'occupe de la problématique dans la question des religions en tant que phénomène religieux. Pour le reste, ça relève d'autres types de problèmes. La liberté d'expression que vous évoquez entre la différence de la culture française ou la culture américaine, c'est pas forcément la question de la laïcité. C'est un autre type de problème. Donc je répondrai modestement, ne faisons pas une extension générale de la laïcité parce que sinon elle perdra tout son sens. La notion de laïcité, il faut la limiter dans la problématique avec les croyances religieuses, ce ne sont pas n'importe quel type de croyances. Il y a des croyances très diverses, mais les croyances religieuses ont une particularité, elles ont une spécificité, non pas parce qu'elles sont simplement des croyances religieuses, mais parce qu'elles donnent naissance à des organisations telles que les religions qui sont des éléments qui comment dire, bon, faudrait là faire un cours d'anthropologie religieuse, ce qui est un peu plus complexe. Et donc, ce n'est pas n'importe quel type de croyance. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas que ce que vous dites est inintéressant, je ne dis pas que ce que vous dites ne sont pas d'autres types de problèmes, mais je dis que voilà, la laïcité, pour qu'elle garde un sens compréhensible, si vous voulez, il faut la limiter dans le cas de ce qui sont les rapports entre les religions et le rapport aux politiques. Et la laïcité, elle, ce sera la séparation des sphères du politique et du religieux. Donc la religion ne marche plus sur le phénomène politique et le politique ne se mêle plus de religion. Sinon, parce qu'on peut très bien demander aux religions de ne plus se mêler de politique. Ça, pratiquement, dès qu'il y a eu des politiques, il y a eu ce type d'attitude. Mais si ensuite le politique veut se mêler de questions religieuses, au sens positif du terme, tandis que la laïcité ne s'y mêle que de manière négative, en endiguant les religions par rapport à la sphère publique, hein, la fameuse res publica. Ça vous donnera naissance, non pas au papo-césarisme, mais au césaropapisme, qui marque à peu près un millénaire de l'histoire de la chrétienté comme tentative, où ce sont les politiques qui voulaient dicter le contenu de l'Église. Constantin se pensait, pour prendre un exemple, se pensait au-dessus des autorités religieuses, parce que comme il était empereur de droit divin, il était considéré comme l'intercesseur privilégié. C'est pour ça que la laïcité, c'est refuser la confusion entre la sphère de la religion, qui renvoie à une question privée, personnelle, ça vous regarde, si vous voulez croire ou ne pas croire, c'est votre droit le plus strict, mais sa limitation, c'est celle de la sphère personnelle, individuelle. Alors après, les individus peuvent s'organiser, faire des associations culturelles, il n'y a aucun problème. Mais c'est nettement séparé de la sphère du politique, de la fondation des lois, du modèle des mœurs. C'est pour ça que, par exemple, la question du mariage. Pendant très longtemps, nous avions eu un mariage, y compris dans la République laïque, qui était un mariage sécularisé. Mais quand on dit un mariage sécularisé, c'est-à-dire qu'il était construit dans son modèle à partir du modèle religieux. Donc, le mariage de la République française jusqu'en 2012, c'est un mariage qui est peut-être laïque, mais qui n'est pas en réalité autre chose que simplement le modèle du mariage religieux sécularisé. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les autorités religieuses pouvaient râler contre le mariage civil, mais elles n'étaient pas vent debout. Alors que l'extension du mariage comme principe à des personnes de sexe pas toujours différent, ou de sexe divers, ce qui paraît qu'il n'y a pas que du X et Y, il y a des tas de variantes, ce n'était pas donc le fait que ce soit un mariage civil de plus, c'est que c'était une remise en cause à travers un modèle qui avait été sécularisé, mais qui était toujours le modèle religieux, in fine, d'un modèle qui, lui, était véritablement laïque. C'est-à-dire que le mariage pour tous comparativement à l'autre, c'est-à-dire penser uniquement dans la conception hétérosexuelle, n'est pas une simple prolongement du mariage religieux mais sécularisé, c'est désormais une autre manière de concevoir, indépendamment de la religion, le concept de mariage. Et c'est ce qui est au cœur de l'opposition qu'on a eue de la part de ces mouvements religieux, que je peux parfaitement comprendre, qui pour eux d'ailleurs était une remise en cause de la civilisation. Alors on avait évidemment les arguments de conneries comme d'habitude, hein, homosexuel, pédophile, évidemment, Marc Dutroux était homosexuel, c'est bien connu. Immense majorité des cas de pédophilie, c'est bien connu, ce ne sont que des cas d'homosexuels qui le pratiquent. Bon, voilà. On l'a vu par banderoles immenses dans ces manifestations. Mais quand vous écoutiez les gens qui étaient capables d'un peu plus penser ces questions-là, ce qu'ils disaient, c'est que ça remettait en cause le modèle de société, le modèle de civilisation. Car en arrière-plan de la laïcité, c'est un changement de modèle civilisationnel. Pourquoi ? Parce que c'est pas simplement au sein des rapports entre le politique et le religieux, on organise la relation autrement, qui est le modèle classique de tous les régimes politiques non laïques. Tout régime politique non laïque est toujours une alliance entre le politique, d'une manière ou d'une autre, et la religion. Et même l'athéisme d'État de l'URSS, qui n'est absolument pas de la laïcité, revient, c'est ça qui est paradoxal, de facto, à une alliance, au sens, hein, le A majuscule de l'alliance biblique, entre le temporel et le religieux, sauf que là que le religieux est l'élément, on va dire, antinomique d'opposition qui fonde la légitimité, de la disons, du pouvoir marxiste dans ce type de contexte. C'est-à-dire qu'un athéisme d'État, en apparence, ça parle d'athéisme et ça pourrait parler de la laïcité, mais en réalité, ça reste une relation organique entre religion et État. Sauf que la relation est dans la domination totale du politique, et la négation totale du phénomène religieux. Mais c'est toujours dans une sorte de couple où, depuis l'histoire, je veux dire, de l'invention du religieux par rapport au politique, c'est de savoir qui porte la culotte. Toute l'histoire de toutes les religions dans leur rapport entre politique et religieux, c'est qui, au sein du couple, pouvoir temporel, pouvoir spirituel, porte la culotte. Alors parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre, parfois c'est les deux qui n'est qu'un, etc., etc. Peu importe, ça revient toujours à ça. Depuis ce qu'on appelle les divinocraties, parce qu'il y a à peu près une vingtaine de catégories de régimes politico-religieux différents. Sur cette vingtaine, 19 sont toujours des relations organiques entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, un pouvoir religieux quelconque. État gallican, cléricocratie, divinocratie, monarchie divine, monarchie élective, mais à connotation providentialiste, l'état séculier aussi, il a rompu les ponts avec l'Église organique, mais pas avec les idées religieuses. Ce qui fait que les prêtres ne sont pas dans la Chambre des députés, mais les idées religieuses y sont toujours. Donc on peut faire comme ça un examen de tous les régimes politico-religieux, tous sont liés encore à des dispositifs d'alliance entre le politique et le religieux. La seule exception, c'est la laïcité, puisque la laïcité devient indifférente à la question du phénomène religieux. C'est-à-dire que ce qui fait l'exceptionnalité de la laïcité, je ne dis pas la supériorité, l'exceptionnalité, c'est qu'elle rompt l'alliance pour la fondation du politique autant que les religions. Alors évidemment, certaines religions l'ont très bien compris, l'ont très bien accepté. Il y a des tas de religions qui ont accepté d'être dans un rapport par rapport au pouvoir politique laïque. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que ce sont des religions qui, au point de vue de leurs postulats doctrinaux, elles, n'adhèrent pas à des idées de monarchie divine, de droit divin, ou à des considérations providentialistes. Donc c'est pour ça que ce n'est pas en soi la religion qui a un problème avec la laïcité, c'est certains types de religions quant à leur contenu et leurs croyances. Vous avez par exemple des religions qui ont un fonctionnement de type congrégationaliste. Celles-là, elles ont peu de problèmes avec la laïcité. Par contre, plus une religion est cléricale, plus elle a des difficultés à accepter la laïcité.
Voilà, je pense que il n'y a pas d'autres questions. On peut peut-être s'arrêter là. Ça fait 2 heures que...
Apparemment, on n'est pas les plus mauvais ici en termes de laïcité. Est-ce qu'il y a pas la possibilité de créer des comités de laïcité pour essayer de s'améliorer encore ?
C'est un autre débat.
Il y a des tas de gens qui, en France, essayent de se battre pour la laïcité. En Ariège, ici, ailleurs, dans d'autres, c'est pas les mouvements qui... Sauf qu'ils sont très peu nombreux. Oui, mais ça dépendra des autorités du prince. Donc, si vous voulez que la laïcité progresse, madame, n'attendez pas que l'État s'en charge. Commencez à vous en charger. Commencez à devenir, par exemple, un pitbull administratif dès que vous avez votre élu local qui... toujours bien intentionnés, sont les premiers à violer la laïcité. On peut s'amuser comme ça à examiner des choses qui sont au niveau des élus locaux, dans des petits villages, passent leur temps, souvent sans le savoir, sans le vouloir, à passer outre la laïcité. Il y a des tas de choses qui sont faisables là-dessus. Donc si vous voulez que l'État se bouge là-dessus, très bien, mais commençons à nous... N'attendez pas que ça descende d'en haut. Il faut sortir de la logique... voilà.
Bien.
Tu fais une conclusion ? Tu es président ?
Je n'ai pas de conclusion à faire.
Non, mais c'est...
Bon, mais maintenant, il y a le buffet que vous avez amené, l'auberge espagnole qui... Alors, tu l'as ?
Le prochain Pupin Vol se déroulera à Montesquieu-Volvest, à la salle polyvalente. Ce sera le 27 mai.
Oui, c'est ça.
Et ce sera sur Où va l'agriculture ?
Le ravi.
Alors, ouais, je vais comprendre.